18h-20h, Philippe Vandel sur Europe 1.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier 18-20 de la semaine. Au menu de ce dimanche, 2 heures d'info avec du sport. Le Paris-Roubaix qui vient d'arriver, on va vous dire qui a gagné. Les Verts de Saint-Etienne qui jouent en ce moment, là on peut rien vous dire. Et le Grand Prix de Chine, le 1000e de l'histoire de la F1. Soyez prudents si vous êtes au volant. Une page média avec le 3e animateur le plus populaire de France, Jean-Luc Reichmann, et des dossiers. À partir de ce soir minuit, le personnel paramédical de tous les services d'urgence de l'APHP appelle à une grève illimitée. La revendication est une prime de 300 euros, mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est une agression. Récit avec le docteur Christophe Prudhomme. Il est porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France et il dit qu'il y a urgence, justement. Après 2 ans d'attente, l'événement mondial aura lieu cette nuit à 3h du matin exactement, heure de Paris, le retour planétaire de la série Game of Thrones pour sa 8e et dernière saison. Pierre Langlais, journaliste à Télérama, va nous donner les clés pour comprendre cette frénésie, le mot est faible. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Philippe et bonsoir à tous. N'hésitez surtout pas à réagir. Un petit commentaire sera le bienvenu, par exemple sur Twitter, avec le hashtag Europe 1 ou sur Europe1.fr. 18h, bonne fin de week-end à tous. Le journal, François Geffrier, Philippe Vandel.
Bonsoir François.
Bonsoir à tous.
Au sommaire de votre journal de ce soir.
Une marathonienne qui bat le record de France mais qui est toujours sous la menace de 2 enquêtes. Le soupçon du dopage gâche la fête et le chrono de Clémence Calvin, 2h23 ce matin à Paris. Concilier social et écologie, c'est possible, c'est même une nécessité. À en croire Nicolas Hulot et une quinzaine de leaders associatifs qui en appellent à Emmanuel Macron à quelques heures de ses premières annonces post-grand débat national. Dans ce journal, le premier vol d'un avion hors norme, 2 fuselages et des de 117 mètres d'envergure. Le Stratolaunch à terme doit pouvoir larguer des fusées en altitude. Elle aussi attend sur sa rampe de lancement la célèbre série Game of Thrones. Sa 8e et dernière saison sera mise en orbite la nuit prochaine. Et puis dans 10 minutes, le journal des sports avec le Paris-Roubaix, victoire du Belge Philippe Gilbert à 36 ans devant l'Allemand Niels Politz.
Europe 1. Un nouveau record de France du marathon, mais une vraie interrogation.
Clémence Calvin a bouclé les 42 km ce matin à Paris en 2h23, performance jamais atteinte par une Française jusqu'à présent. Mais l'athlète est sous le coup d'une enquête de l'agence de lutte contre le dopage. C'est donc un record un peu embarrassant, Pierre Herbulot.
Oui, ici c'est silence radio sur la ligne d'arrivée du côté des organisateurs du marathon. Aucun commentaire sur ce qui, sur le papier, est pourtant un record de France. Comme si cette performance de Clémence Calvin dérangeait. Il faut dire que le temps de l'athlète doit encore être homologué. Elle sera bientôt entendue par la commission de sanctions de l'agence de lutte contre le dopage pour avoir esquivé un contrôle au Maroc le mois dernier. André Giraud, le président de la Fédération française d'athlétisme, reste donc prudent en attendant.
Les athlètes, pour que leur record soit validé, doivent subir des contrôles normaux. Et entre 15 jours et un mois, on devrait savoir qu'il en est exactement. Je vais lui faire un SMS pour la féliciter de son record. En attendant, bien entendu, de connaître la suite.
Dans l'attente de son audition, Clémence Calvin avait bénéficié en gros d'un sursis pour courir ce marathon, ce qui n'a pas trop semblé la déconcentrer comme elle l'a confié à nos confrères de France Télévisions sur la ligne d'arrivée.
C'était une semaine compliquée, c'est sûr. Après, mes proches ont continué de me préserver et j'ai reçu beaucoup de messages de soutien en amont. Et à part 3-4 distracteurs, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Dans ma tête, je me répétais sans cesse « j'aime Paris, je t'aime Paris, je t'aime la France ». Et le public me le rend bien.
L'agence française antidopage examinera donc le cas Clémence Calvin dans les prochaines semaines et dira dans la foulée si oui ou non l'athlète est la marathonienne la plus rapide de France.
Les explications de Pierre Herbulot, merci. On précise que malgré ce record de France, c'est une Éthiopienne qui a franchi la ligne d'arrivée la première chez les dames, Gelete Burka en 2h22 et un Éthiopien également chez les hommes, Abramilo en 2h07.
À quelques heures des annonces d'Emmanuel Macron, une brochette de leaders associatifs lui réclame une écologie sociale.
Oui, dans une tribune publiée ce matin par le journal du dimanche, Nicolas Hulot, accompagné des responsables du Secours catholique, de France Nature Environnement ou encore de la CFDT, demande un sursaut politique. La présidente d'ATD Quart Monde, Claire Hédon, fait partie des signataires de cet appel.
Il y a urgence à agir et à ne pas opposer protection de l'environnement et lutte contre la pauvreté. On retient là du grand débat, pas tout à fait la même chose que ce que retient le gouvernement. Il n'est pas simplement question de rigueur budgétaire, de moins d'impôts, c'est pas simplement ce que disent les Français. Ils disent qu'ils veulent plus de justice fiscale. Il y a un ras-le-bol de l'injustice. Et ils demandent aussi plus de services publics. C'est très clair sur la question de la santé, de l'école, la lutte contre l'échec scolaire, du logement, l'accès au logement social, du travail. Et c'est ça que disent les Français aujourd'hui. Donc on n'entend pas tout à fait la même chose dans ce résultat du grand débat. Et on voit bien que la rigueur budgétaire, honnêtement, ça peut pas être une politique. Il faut plus d'ambition. Il faut investir dans la transition écologique et solidaire. Et c'est bien ces deux mots en même temps, écologique et solidaire. Et c'est ça qu'on veut dire en ce moment au président de la République et au gouvernement.
Claire Hédon, présidente d'ATD Quart Monde. Emmanuel Macron pourrait prendre la parole demain soir à la télévision pour dévoiler des mesures inspirées du grand débat national. C'est demain également que Marine Le Pen présentera à Strasbourg le programme du Rassemblement National pour les élections européennes. Mais Europe 1 révèle déjà les points clés de ce texte avec vous, Adrien Beck. Ça s'appelle « Pour une Europe des nations et des peuples ». Et ce qui frappe, c'est que ce programme n'appelle pas à quitter l'Union européenne.
Oui, plus question de revenir au franc. Après de longs mois de flou, la position est désormais très claire. Il faut modifier le fonctionnement de la zone euro. Marine Le Pen, on s'en souvient, avait dit comprendre la peur des Français sur le sujet. Oubliez aussi le Frexit, place à la révision des traités européens, avec notamment la suppression de la Commission européenne. Autant de mesures qu'il faudra faire accepter par les pays de l'Union, c'est loin d'être gagné. Alors la présidente du RN mise sur un bras de fer au niveau européen entre patriotes et européistes, selon ses mots, nationalistes et progressistes, diront d'autres. Dans sa bonne vingtaine de propositions, le RN opère aussi un petit verdissement, détaxer les circuits courts, surtaxer les importations anti-écologiques. Aux côtés de ces nouveautés, on retrouve aussi des mesures très classiques au RN, rétablissement des contrôles aux frontières nationales, arrêt de l'immigration, sans oublier une mesure phare, la suppression de la directive européenne sur le travail détaché, défendue de longue date par le RN, mais bien loin de faire l'unanimité chez ses alliés, notamment en Europe de l'Est.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Si vous devez passer aux urgences de l'assistance publique hôpitaux de Paris à partir de ce soir minuit, vous verrez des personnels soignants en grève. L'accueil des patients ne sera pas affecté. Les grévistes portant simplement un brassard pour signifier leur mécontentement. Ils souhaitent de meilleures conditions de travail, notamment en termes d'effectifs et de sécurité.
Et à noter qu'à 18h30, je recevrai pour en parler le docteur Christophe Prudhomme. Il est porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France.
Deux informations en bref à l'étranger. D'abord la Libye, où 121 personnes ont été tuées depuis une dizaine de jours dans la percée des forces du maréchal Haftar contre la capitale Tripoli. Le maréchal Haftar qui a rencontré aujourd'hui le président égyptien Al-Sisi au Caire, l'un de ses soutiens. Et puis au Soudan, où le président Omar el-Béchir a été destitué il y a 3 jours après 30 ans de règne, l'armée qui contrôle le pays appelle les partis politiques à s'entendre sur une figure indépendante pour devenir Premier ministre. Les militaires soudanais demandent aussi le soutien de la communauté internationale pour parvenir à une transition démocratique.
Dans un instant, on va vous décrire cet avion géant qui a décollé pour la première fois hier aux États-Unis, le Stratolaunch, futur lanceur de fusée. A tout de suite.
Il est 18h08, la suite du journal François Geffrier, Philippe Vandel.
Un avion XXL, la silhouette étonnante, a fait son premier vol hier au-dessus de la Californie.
Oui, c'est le Stratolaunch, un drôle d'oiseau aux dimensions exceptionnelles. Jean-Jacques Héry, décrivez-nous cet appareil.
Oui, on a affaire à un drôle de bébé désert. Hein. Au moment du décollage, c'est impressionnant. Il y a deux fuselages symétriques d'abord. On a l'impression que deux avions sont collés et reliés ensemble. Une silhouette très fine et une envergure pour cet appareil ahurissante. 117 mètres de long entre les extrémités des deux ailes, c'est plus que la longueur d'un terrain de football, à tel point que l'on se demande bien comment ce mastodonte va pouvoir s'arracher au sol. Et bien, pour cela, il faut six moteurs de Boeing 747 grâce auxquels cet étrange oiseau a pu voler pendant plus de 2h30 au-dessus d'un désert californien. Un vol à la vitesse de 300 km/h et jusqu'à 17 000 pieds, ça fait environ 5 km d'altitude. Alors, je vous vois venir, François, à quoi ça sert de construire des avions aussi grands? Eh bien, concurrencer Ariane, entre autres, et tous les lanceurs de satellites qui existent aujourd'hui, parce que dans un avion pareil, on peut théoriquement embarquer une petite fusée. Cette petite fusée, elle s'allume quand l'avion atteint son altitude de croisière et elle se dirige vers l'espace pour placer un satellite en orbite. Pas question de pas de tir, pas besoin de centre spatial, une grande piste de décollage suffit. Alors on n'en est pas encore là, il reste de nombreuses expérimentations avant d'arriver à un tel résultat. L'ambition de l'avion Stratolaunch de proposer une alternative au système de lancement au sol comporte encore de nombreuses incertitudes.
Merci Jean-Jacques Herry pour Europe 1.
H-8h50, les fans de série Game of Thrones piavent d'impatience.
Oui, car c'est cette nuit à 3h du matin, heure française, que sortira la 8e et dernière saison de cette série télé au succès presque aussi surnaturel que son scénario. Un script dérivé des romans de l'écrivain George R.R. Martin, mais la série est allée plus vite que l'écriture des derniers livres. Explication de Nicolas Caro.
George R.R. Martin prend son temps, mais la télé n'attend pas. L'écrivain a prévu 7 tomes de Game of Thrones, 5 ont été publiés et les lecteurs patientent depuis 7 ans pour lire le 6e. Bien entendu, la série, elle, s'est depuis longtemps affranchie des livres de Martin. Les deux dernières saisons ont été inventées. Ce soir, l'écrivain connaîtra donc la fin de son histoire avant même de l'avoir écrite. Dans une interview pour un journal américain, il a déclaré « Je sens que je vais traîner à Westeros encore un bon moment quand tout le monde sera parti. Westeros, c'est une partie du monde dont il est le créateur. Comme Tolkien est le Seigneur des Anneaux, Martin a créé un univers entier. Des peuples, des langues, des religions, une géographie. Les possibilités narratives sont donc infinies. D'ailleurs, il travaille à une nouvelle histoire, La Longue Nuit. C'est son titre, se déroule dans le même monde, mais 1000 ans plus tôt.
Nicolas Caro, spécialiste littérature d'Europe 1.
Et on parlera tout à l'heure de Game of Thrones avec un journaliste de Télérama et on va parler exactement de ce qui se passe dans la série, il va tout nous dire. C'était le journal de François Geffrier, merci beaucoup François.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
La météo avec vous Valérie Darmon, demain c'est un peu plus doux.
Absolument Philippe, une perturbation stagne sur la façade ouest. Elle donne quelques pluies sur la Bretagne en journée. Elle s'accompagne d'un vent d'est modéré. Et le soir, ce vent tournant brusquement au secteur ouest et au secteur sud, eh bien les températures vont remonter. Bon, en même temps, le temps deviendra pluvieux sur le sud-ouest durant la nuit, parfois orageux. Sur les Alpes et la Corse, le ciel va rester variable avec toujours un risque d'averse, mais assez faible. En revanche, sur le reste de la France, eh bien le soleil va dominer grâce à ce vent. Les gelées sont moins nombreuses, entre 0 et moins 2 degrés sur le nord et dans l'est. Ailleurs, les minimales oscilleront entre 1 et 7 degrés et jusqu'à 10 près de la Méditerranée. C'est le dernier jour où on va remarquer qu'il y a autant de gelées. Et l'après-midi, il fera entre 13 à 17 au nord et à l'est de la Loire, 17 à 22 au sud. Températures qui remonteront sérieusement dès mardi, je vous en parle tout à l'heure.
Vivement mardi, vivement tout à l'heure.
Le journal des sports.
Le journal des sports avec vous Simon Rubin, bonsoir.
Bonsoir.
Et on va commencer avec du cyclisme, une histoire belge sur Paris-Roubaix.
Une histoire belge avec la victoire du Wallon Philippe Gilbert de l'équipe Quick-Step à 36 ans. Il ajoute une ligne de plus à un palmarès déjà extraordinaire, Axel May.
Oui, alors que la cérémonie de remise du trophée, ce pavé avec son nom gravé dessus, vient de se terminer. Philippe Gilbert est en train de répondre aux nombreux médias présents, notamment les Belges. C'est un collectionneur de monuments. Après le Tour de Lombardie 2009 et 2010, après Liège-Bastogne-Liège 2011, après le Tour des Flandres 2017, Philippe Gilbert remporte donc son quatrième monument Paris-Roubaix au sprint devant son dernier compagnon d'échappée, le très prometteur allemand Nils Polite. À 36 ans, Gilbert est toujours là. Écoutez le cri de joie de son manager, Patrick Lefebvre. Yeah.
Combien ? Vous en avez gagné combien, vous savez ?
12. Oui, 12e Paris-Roubaix remporté par Lefebvre, le manager de la formation de Koenig Quickstep. Quant à Gilbert, pour compléter sa collection, pour avoir les 5 monuments, il lui reste à les conquérir Milan San Remo.
Axel May depuis la ligne d'arrivée de ce Paris-Roubaix.
On va passer au football, la 32e journée de Ligue 1 et la course au podium qui se resserre.
Et entre les errances de Lyon et le parcours toujours chaotique de Marseille, eh bien c'est peut-être Saint-Étienne qui peut ce soir se relancer dans la course à la Ligue des Champions. Les Verts, 5e avant leur match contre Bordeaux. Anthony Perel, vous êtes au stade du côté de Saint-Étienne et pour le moment, c'est très serré entre Saint-Etienne et Bordeaux.
Oui, on joue depuis 50 minutes ici à Geoffroy Guichard, 0-0 entre Stéphanois et Bordelais. L'ASS a globalement dominé la première mi-temps sans se procurer d'énormes occasions non plus. Bordeaux, de son côté, procède en contre. Il faut dire que Gassé, le coach des Verts, a mis une équipe ultra-offensive cet après-midi. Toute l'armada des Verts est alignée. Cabella, Nordin, Kazri, Beric et Amouma sont sur le terrain. Mais les Stéphanois confirment qu'ils n'y arrivent pas face aux Girondins. Ça fait plus de 3 ans que l'ASS n'a plus battu Bordeaux. Et pourtant, on vous l'avait dit, Simon, l'opération comptable peut être super intéressante. En cas de succès, Saint-Etienne reviendrait à 3 points du podium. Mais pour cela, il va falloir faire sauter le verrou girondin. Il reste bientôt 40 petites minutes à jouer.
Anthony Perel en direct et puis toujours en foot, mais un peu plus tôt dans l'après-midi. Rennes en difficulté hein, sur cette fin de saison, recevait Nice. Score final 0-0. L'entraîneur des Niçois, Patrick Vieira, s'en contentera.
C'est un bon résultat quand on regarde la première période où on a été plutôt inexistant sur le plan offensif. On peut dire que c'est un bon résultat, un très bon résultat pour nous et un bon point pris contre une bonne équipe de Rennes.
Propos recueillis par Stéphane Beignet, puis Montpellier a battu Toulouse 2-1, revient à la 6e place du classement. Ce soir, évidemment, le PSG ira jouer peut-être le titre du côté de Lille.
Il suffit juste qu'ils perdent pas. On termine avec le reste de l'actualité en bref, et notamment Simon, le marathon de Paris.
Remporté chez les dames par l'Éthiopienne Burka, triplé hein, des Éthiopiennes d'ailleurs. Clémence Calvin, la Française, dans le collimateur de l'Agence française de lutte contre le dopage, a quand même pu courir et elle termine 4e avec un record de France à la clé. Et chez les hommes, victoire d'un Éthiopien également, Arba Milao en 2h07 et 5 secondes. Et puis du rugby pour terminer, la victoire difficile pour le Racing, 26-25 contre Montpellier. Et Toulouse en ce moment, alors qu'on joue la 65e minute, mène 33-30 face à Clermont.
On aura le résultat du match tout à l'heure dans votre journal des sports. Vous allez revenir, Simon Rubin, à tout à l'heure.
Europe 1.
Surchargé, sous-payé, voire même agressé, le personnel des urgences de plusieurs hôpitaux franciliens entre en grève illimitée à partir de ce soir minuit. Alors que plus de 9 Français sur 10 attendent davantage de moyens pour l'hôpital public, ce dernier est-il le grand oublié du grand débat ? Christian Prudhomme, porte-parole des médecins urgentistes de France, sera avec nous dans un instant.
Il est 18h18, Philippe Vandel, vous recevez à présent votre premier invité, on va parler santé.
Oui, et c'est peut-être pas le moment de se casser le bras. À partir de ce soir minuit, le personnel paramédical de tous les services d'urgence de l'APHP est appelé à la grève illimitée, l'APHP, c'est-à-dire les hôpitaux parisiens et une grande partie de l'Île-de-France. Bonsoir Christophe Prudhomme.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, vous êtes vous-même urgentiste à l'hôpital Avicenne de Bobigny et délégué CGT. Alors tout d'abord, plaisanter peut-être à tort, il faut rassurer les gens qui nous écoutent, il y aura des grévistes, mais les patients seront pris en charge.
Oui, rien ne change. On appelle ça nous, une grève sparadrap,
c'est-à-dire que c'est le cas de le dire.
On met un sparadrap en mettant en grève,
ouais.
Mais les effectifs étant tellement réduits en continu, que de toute façon, qu'on soit en grève ou pas, les effectifs sont les mêmes. C'est-à-dire que les personnels sont assignés,
ouais.
Mais on a 100% de grévistes et 100% des personnels prévus qui sont au travail.
Alors, pour qu'on le sache bien de quoi on parle, qu'est-ce que le personnel paramédical ?
Le personnel paramédical, ce sont les agents hospitaliers, les aides-soignants, les infirmières.
Tout sauf le grand patron qui fait les opérations.
Ah, tout sauf les médecins. Il n'y a voilà. Pas que des grands patrons. Ouais. Il y a les médecins urgentistes bon, qui soutiennent moralement la grève, puisqu'une partie des revendications sont tout à fait communes. Mm-hmm. Mais là, il y a une revendication qui est forte. C'est la reconnaissance de la pénibilité avec une demande d'augmentation de salaire par le biais d'une prime. Et ça, c'est très spécifique au personnel paramédical. Il faut savoir qu'une infirmière aux urgences, c'est maximum 1600 euros en début de carrière. Vous comprenez qu'à Paris, 1600 euros pour venir travailler 24 heures sur 24, 365 jours par an en horaire décalé, ça pose problème.
Parfois, ça même pas le logement. La grève est partie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris où 90% des effectifs sont en grève depuis le 18 mars. Vous l'avez dit, la revendication, c'est une prime de 300 euros, mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est une agression.
Oui, c'est... Enfin, l'agression en tant que telle, vous savez, des agressions, on en a régulièrement, des patients qui sont pris de boisson, des patients psychiatriques. Bon, donc, non, ce qui a posé problème, c'est le manque d'accompagnement de la direction.
C'est
vraiment la procédure. Et là, vous savez, les collègues ont été obligés de commander elles-mêmes un Uber pour aller porter plainte au commissariat.
C'est alors pas que, vrai.
Eh oui, donc vous voyez, c'est une forme de mépris qui est vraiment à provoquer un vent de colère. Et alors bon, il y a la revendication sur la prime, mais vous savez, les revendications sont depuis les locaux. Le manque de lits, on demande à ce qu'on arrête de supprimer des lits. Vous voyez, pour soulager immédiatement le travail des personnels aux urgences, eh bien si on n'a plus ce qu'on appelle les hospitalisations brancards, c'est-à-dire les patients qui attendent sur des brancards un lit, eh bien déjà, ça soulage énormément. Et puis pour les patients aussi, c'est important, parce que vous savez, là, je prends ma casquette de médecin, mais un patient qui attend sur un brancard et qui n'est pas dans un lit, on sait aujourd'hui qu'il y a une surmortalité. Surmortalité, tout patient confondu, de 9% et de 30% pour les patients les plus graves.
Donc, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est ce qui est arrivé en décembre dernier avec une dame de 55 ans qui était morte dans la zone d'attente des urgences à la Riboisière.
Tout à fait. Et alors, pour une qui est médiatisée, il faut savoir que des accidents de ce type-là, il y en a régulièrement. Régulièrement. Et ça, c'est insupportable pour les soignants. Vous voyez, on est là pour prendre en charge des patients, des malades, et pas pour les laisser dans un coin et qui meurent par manque de surveillance. Vous voyez, parce qu'on qu'on n'est pas assez nombreux.
Mercredi, à la Pitié-Salpêtrière, deux patients ont agressé pas moins de 5 soignants et la direction de la PHP a annoncé recruter 45 emplois supplémentaires, mais affectés à la sécurité et aussi renforcer les travaux pour sécuriser les services d'urgence. Mais si j'ai bien compris, ce que vous demandez en premier, c'est des plus gros effectifs, pas des gros bras.
Non, pas des gros bras. Vous savez, le problème, là, 45 emplois pour 25 services d'urgence, vous voyez ? C'est même pas deux emplois par service pour fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par an. Monsieur Hirsch, eh bien, en deçà de ce qu'on demande, nous, ce que nous demandons, c'est un plan d'urgence pour les urgences. Ça fait 20 ans qu'on tire la sonnette d'alarme, ça fait 20 ans qu'on réclame la même chose. Et en 20 ans, la situation s'est aggravée, puisque le nombre de passages aux urgences en 20 ans a doublé sans que les effectifs doublent. Et entre-temps, la situation d'hôpital s'est dégradée. Moins de lits, moins d'effectifs. Et vous savez, là, en fin de semaine, il y a un préavis de grève de l'ensemble des syndicats.
J'allais en parler.
Pour toute l'assistance publique, y compris un syndicat de directeur, avec la CGT, qui appelle à la grève. Pourquoi ? Contre un plan de restructuration de l'assistance publique qui va se traduire par 1000 suppressions d'emplois par an pendant 5 ans. Comment faire plus avec moins ? C'est pas possible.
Je vais le citer, c'est assez rare pour être signalé. Sont ensemble la CGT, Sud, FO, la CFDT, la CFTC, CFE-CGC, l'UNSA et le SMPS. Une des causes de l'engorgement des urgences est connue, c'est que les urgences attirent des patients pour autre chose que les vraies urgences. Parce que le service est gratuit, parce qu'il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Non, je vous arrête tout de suite, c'est parce qu'ils ne trouvent pas de médecin en ville.
Et j'avais pu faire ma phrase en entier, j'aurais dit ce qui n'est absolument pas le cas des médecins de ville. Donc on est sur les mêmes infos.
Mais
comment remédier à ça ? On va pas faire l'entrée payante tout d'un coup.
Non, mais il faut continuer à accueillir les patients aux urgences. Par contre, il faut réorganiser la médecine de ville. Il faut que nos collègues généralistes aient plus de moyens pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions, qu'ils soient mieux répartis sur le territoire. Et puis surtout, j'insiste, ce qui pourrait nous soulager immédiatement, c'est qu'on n'ait plus ces hospitalisations brancards. Il faut que, quand on a décidé que le patient devait être hospitalisé, il soit dans un lit. Et ça soulagerait les urgences. Et il nous faut du personnel en plus, parce que, de toute façon, quoi qu'on fasse, on est sur une tendance de 3 à 4% d'augmentation par an. Vous savez, le nombre de médecins généralistes en ville va diminuer d'ici 2025. Ouais. Donc, de toute façon, il n'y a pas de solution immédiate. Et renvoyer, comme l'a dit un certain député qui se dit urgentiste, mais enfin, il rêve, il voulait nous donner une prime si on renvoyait les gens en ville pour voir un médecin traitant qui n'existe pas. Il est hors du temps, ce député.
Alors là, il y a peut-être un double langage, parce qu'il y a un rapport de la Cour des comptes de 2014 qui pointait ce fait assez spécieux, le fait que la hausse de la fréquentation des urgences permettait aux hôpitaux, je cite, de dynamiser leurs recettes, en clair, de gagner de l'argent. Alors j'explique aux gens, la tarification au forfait permet de financer les cas lourds qui sont sous-facturés par les cas légers qui sont surfacturés. Et donc si on envoie les cas légers aux médecins de ville, ça fait gagner du temps. Mais ça fait également un manque à gagner. C'est assez pervers. Comment sortir de ce cercle vicieux ?
La Cour des comptes se trompe complètement.
Ah bon ?
La Cour des comptes se trompe complètement. Nous avons critiqué la mise en place de cette fameuse tarification à l'activité il y a 20 ans, qui est inflationniste, productiviste. Bon, aujourd'hui, vous savez, un des seuls services à l'hôpital où on ne fait pas d'activité privée, parce qu'on peut faire de l'activité privée à l'hôpital, ce sont les urgences. Donc vous voyez, donc on accueille tout le monde, et en particulier dans certains services qui sont en crise comme l'hôpital de la Riboisière, vous savez, on accueille tout le monde, on accueille les migrants, on accueille des gens qui sont en grande souffrance sociale, et ce qu'on demande comme personnel, vous voyez, pour soulager les soignants, ce sont des médiateurs sociaux, parce qu'on est là, la médecine c'est pas que les actes techniques et la prise en charge du physique, la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est la prise en charge aussi du psychologique et du social, et c'est le rôle des urgences, donc... Voilà, nous, les problématiques financières, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est qu'il y a des gens qui viennent aux urgences et il faut qu'on puisse les prendre en charge dans de bonnes conditions.
Oui, mais peut-être que ces problématiques financières sont-elles très importantes ? Vous parliez de Martin Hirsch. Peut-être que s'il avait une enveloppe double, il serait très heureux, au contraire,
alors,
de pouvoir engager
des
gens.
Je vais vous donner un exemple sur la problématique financière. Une des revendications que l'on pose, en particulier la CGT, c'est qu'il y a un impôt qui est prélevé sur l'hôpital. On parle beaucoup des impôts en ce moment. Il y a un impôt qui est prélevé sur l'hôpital qui s'appelle la taxe sur les salaires. C'est 4 milliards d'euros par an qu'on prend à vous, à moi, puisque nos cotisations sociales, eh bien, supprimons cet impôt qui est injuste. 4 milliards d'euros, c'est l'équivalent de 100 000 emplois. Et puis rétablissons, par exemple, un impôt comme l'ISF, et on trouvera de l'argent. Vous savez, moi, d'entendre le président de la République...
Pardon, juste un mot, je vais sortir la rengaine qu'on sort tout le temps. Quand l'ISF était là, ça ne se passait pas mieux aux urgences.
Non, mais le problème, c'est qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent.
Ouais.
Moi, je veux bien qu'il n'y ait pas d'argent pour l'hôpital, mais dans un pays... riche et développé comme la France, on n'aurait plus. Ce qu'on demande, ce n'est pas du plus, c'est qu'on arrête de nous donner moins.
Déjà, on est peut-être le pays au monde où on est le mieux soigné.
Vous savez, non, on n'est plus le premier système de santé au monde. On était le premier au tournant des années 2000. Aujourd'hui, on est aux alentours de la 10e place. Vous voyez, on est aux alentours de la 10e place. Donc ça s'est dégradé. Bien sûr, heureusement, on a un bon système de santé. Il ne faut pas non plus dramatiser. Mais ce que constate la population et les soignants, c'est qu'ils se dégradent d'année en année. Et donc, on voudrait qu'on remonte la pente dans l'autre sens, arrêter cette dégradation et que ça s'améliore.
Pour vous donner raison, vous êtes très fortement soutenu par l'opinion. Il y a un sondage qui a été réalisé pendant le grand débat national qui indique que 94% des Français, c'est-à-dire presque tout le monde, attendent une augmentation des moyens pour l'hôpital public. Et puis, il y a un effet pervers. Moins il y a de personnel aux urgences, plus il y a d'attentes. Plus il y a d'attentes, plus il y a de violence. Et plus il y a de violence, moins le métier est attractif. Et donc, moins vous avez de personnel.
Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de services où nous avons du mal à recruter. Il faut savoir qu'on a du mal à recruter des infirmières. On a des médecins urgentistes qui abandonnent la profession parce qu'ils n'en peuvent plus, les conditions de travail. Vous voyez, à 40 ans, ils sont cuits. Ce qui est catastrophique. Vous voyez, à 40 ans, vous arrivez au top de votre carrière et ils abandonnent le métier.
Vous avez quel âge ?
Moi, j'en ai 58.
À vous entendre, vous êtes tout sauf cuit. Merci beaucoup, Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, urgentiste à l'hôpital Avicenne de Bobigny et délégué CGT. Merci pour cette belle énergie. Merci d'être venu ici en direct à Europe 1.
Merci à vous.
Europe 1.
C'est la série la plus piratée de l'histoire avec beaucoup, beaucoup de morts, à tel point qu'un célèbre antivirus a vivement déconseillé de télécharger le premier épisode de l'ultime saison qui va sortir cette nuit, probablement truffé de virus. 1 milliard de téléspectateurs potentiels dans le monde. Vous avez reconnu Game of Thrones, la saga de tous les records qui tire sa révérence. On en parle avec le critique de série Pierre Langlais dans un instant.
Bienvenue à vous, vous écoutez votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1 et dans une minute il sera 18h30 Philippe.
Et pour l'instant c'est le rappel des titres, Chanel Petit, bonsoir Chanel.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Revalorisation des salaires, meilleures conditions de travail et plus de sécurité. Les personnels des urgences de plusieurs hôpitaux parisiens en grève illimitée à partir de minuit ce soir. Ils se plaignent notamment d'agressions régulières. Le directeur de l'APHP Martin Hirsch a promis 45 postes supplémentaires. Pas assez selon les syndicats, une réunion de négociation doit avoir lieu demain entre la direction et les représentants syndicaux. Avant les annonces d'Emmanuel Macron dans les prochains jours, à la suite du grand débat, Nicolas Hulot et 15 autres personnalités signent une tribune dans le journal du dimanche pour un sursaut politique sur les questions de transition écologique et de justice sociale. 2 ans après le Tour des Flandres, le cycliste Philippe Gilbert a remporté cet après-midi le Paris-Roubaix au sprint après 257 km de course. L'Allemand Nitz Politz se prend la 2e place. Le Slovaque Peter Sagan n'arrive que 5e.
Merci beaucoup Chanel. À tout à l'heure 19h pour votre journal complet.
Europe 1.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Ah bah justement, si on veut aller sur la terrasse, la météo c'est avec vous, Léry Darmon, ciel variable et plus doux cette semaine.
Alors du Cotentin à l'Occitanie, en passant par l'Auvergne, le ciel sera de plus en plus nuageux, mais pas bien méchant. Au nord de la Seine, jusqu'en Rhône-Alpes, dans le sud-est, soleil, après la dissipation des nuages bas du matin, notamment près des frontières belges et allemandes. Les nuages peuvent se développer aussi dans l'après-midi, avec un risque d'averse léger cette fois, dans l'arrière-pays azuréen, ainsi qu'en Corse. Le temps se calme donc globalement sur ces régions de l'Est. Ailleurs, il continue de faire beau. Les températures commencent leur remontée lentement, mais sûrement, et le spectre des gelées s'éloignera enfin dès mardi. Les minimales de ce lundi oscilleront entre moins 4 à Montluçon et 9 degrés à Perpignan, les maximales entre 13 à Dunkerque et 22 à Bordeaux.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Bonne fin de week-end avec Europe 1 et maintenant Philippe Blandel, on va parler d'un phénomène.
Et on va commencer en musique. Les fans du monde entier auront évidemment reconnu ce générique après 2 ans d'attente. L'événement planétaire aura lieu cette nuit à 3h du matin, exactement heure de Paris. Le retour de la série Game of Thrones pour sa 8e et dernière saison. Bonsoir Pierre Langlais.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Télérama, membre de l'Association française des critiques de séries. Question d'abord, est-ce que cette nuit, vous allez mettre votre travail à 3h du matin ou alors boire des thermos de café pour tenir ?
Non, je ne vais pas me coucher tout court. Voilà. Ouais. Des tisanes, mais on va trouver un moyen de tenir en tout cas.
Alors la série Game of Thrones fait la une aussi bien de Télérama, l'hebdo culturel où vous écrivez, que du quotidien Libération, que du mensuel Philosophie Magazine, que du hors-série du mensuel Lire dont nous sommes partenaires. Pourquoi cette série touche-t-elle autant de monde transversalement, dans autant de domaines, autant de champs d'intérêt différents selon vous?
Ben justement parce que c'est ce que j'aime appeler une hyper-série, c'est-à-dire qu'il y a presque tout là-dedans. Pour commencer, c'est un grand divertissement intelligent, c'est-à-dire que c'est au croisement, c'est diffusé sur une chaîne aux États-Unis qui s'appelle HBO, qui était la chaîne des séries d'auteurs un petit peu complexes qui s'adressaient plutôt à des petits publics de spécialistes. Mmh. Et puis c'est aussi un grand blockbuster tourné avec des millions de dollars, avec beaucoup de scènes de bataille. On a vu des trucs incroyables cette dernière saison. presque plus impressionnant que ce qu'on peut voir au cinéma. Et donc, en fait, c'est tout à la fois pour tout le monde et pour les spécialistes. Et c'est à la fois une série historique, mais c'est pas vraiment une série historique. C'est un soap-opéra comme Dallas, où il y a des histoires de famille et de trahison et de coucherie. Il y a tout est là-dedans.
J'allais vous demander, qu'est-ce que ça raconte pour qui ne l'a pas vu en 15 secondes ?
Ouah, ça va être très difficile.
Allez, 25.
Allez, ça se passe sur deux continents imaginaires et il va y avoir des familles qui se font la guerre pour un fameux trône de fer, c'est le titre en français. Sauf que, au-delà du mur qui protège le royaume au nord, arrive une armée de sortes de morts-vivants congelés qui s'appellent les Marcheurs Blancs et donc tout le monde va devoir s'unir d'une façon ou d'une autre pour se défendre. C'est un versement extrêmement raccourci du pitch.
Et puis, il y a l'hiver qui arrive.
Winter is coming!
Winter is coming, l'hiver qui arrive, c'est en creux une allégorie du réchauffement climatique.
Non, je pense pas. Mais pourquoi pas, en fait, on peut tout lire. C'est ça qui est formidable à Game of Thrones. C'est que c'est un matériau qui est tellement riche, tellement pluriel. C'est une série qui est tellement chorale. Il s'y passe tellement de choses qui ressemblent à notre histoire, qui ressemblent à nos guerres, qui ressemblent à l'histoire d'Angleterre, notamment, qu'en fait, on peut y voir tous les filtres possibles à cette série.
Ce qu'il y a de complètement nouveau dans Game of Thrones, c'est que contrairement à toutes les séries précédentes, n'importe quel personnage, même le premier rôle, peut mourir à n'importe quel moment, ce qui peut jamais arriver dans Starsky et Hutch, par exemple.
Oui, alors évidemment, Starsky et Hutch, c'était compliqué, c'était que deux, mais il y a eu d'autres séries avant, comme Oz, par exemple, qui c'est ça, où les Sopranos ont tué beaucoup de leurs personnages, mais en tout cas, c'est un ressort que la série utilise beaucoup, comme The Walking Dead en son temps, et c'est justifié, parce que c'est dans un monde ultra violent, où évidemment, ça serait étonnant que les personnages s'en sortent tous vivants.
Ce qui fait le succès de la série aussi, sont les ingrédients des premières saisons, le sexe et la violence. Est-ce que c'est encore le cas, ou est-ce qu'il y en a de moins en moins ?
Alors, il y a de plus en plus de violence et de moins en moins de sexe, si j'ose dire. La série a eu des petit problème, mais d'ailleurs à juste titre a été assez critiqué. Faut revoir les premiers épisodes, les personnages féminins sont systématiquement dénudés, et donc elle a été accusée notamment dans une scène de viol d'avoir un regard complaisant sur le sexe et sur certaines violences faites aux femmes, donc elle a évolué à ce niveau-là. Et puis j'allais dire, aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de temps pour le sexe, parce que c'est la guerre et que tout le monde s'entretue. Ben non, mais c'est aussi le scénario, donc évidemment il va y avoir de plus en plus de morts. Les 6 derniers épisodes, je pense que faut se préparer à mettre des tombes à gauche à droite, mais il n'y aura plus beaucoup de place pour le sexe.
Game of Thrones en chiffres, la dernière saison sur HBO a été vue par 12,1 millions de téléspectateurs aux États-Unis et dans le monde 30 millions. Alors pardon de dire ça, mais j'arrive pas à trouver ça énorme, parce que 12,1 millions pour un pays comme les États-Unis, c'est moins que les 15 millions de Français qui ont regardé le concert des Enfoirés pour les Restos du Cœur.
Oui, alors sauf que je pense que c'est par épisode.
Oui. Mais
bah
même
ça
quand
fait
même,
déjà pas
12
mal.
Millions, c'est pas foufou.
Oui, alors il faut comprendre qu'HBO aux États-Unis, c'est une chaîne payante.
Ouais.
Donc il faut s'abonner. Le jour où Canal fera 12 millions de téléspectateurs sur un truc, je pense qu'ils seront hyper contents. Donc il faut s'abonner.
Ils le font exactement. Ils peuvent faire
après...
des matchs à 3 millions. Vous multipliez ça par le nombre d'habitants, ça fait exactement le même score.
Alors,
ça fait un PSG Marseille.
Alors pour vous répondre, c'est une série monde. C'est une série internationale. Évidemment, c'est une production américaine, mais c'est tourné en Angleterre, partout en Europe. Et c'est regardé partout à travers le monde. Je peux vous rassurer, HBO, il rentabilise tout à fait les quelques 100 millions de dollars qu'a coûté la dernière saison. C'est 1 milliard de dollars par an qui rentre dans les comptes de la chaîne en tout produit dérivé, tout ce qu'on va
avec. Je vous donne le sens de ma question. Je ne suis pas en train de critiquer le succès. Moi, je me réjouis du succès des gens, surtout quand c'est de la qualité. 1 milliard également d'épisodes vus et piratés dans le monde. Mais est-ce qu'il n'y a pas, je parlais tout à l'heure des couvertures de magazines, est-ce que ce n'est pas surtout un phénomène socio-générationnel, une série qui passionne les journalistes ?
Oui.
Et je me mets dans la boucle. Hein.
Alors, plus que les journalistes, hein, vraiment, c'est partout, sur tous les réseaux sociaux. Non, je pense que c'est devenu vraiment c'est l'incarnation de la discussion de la machine à café. C'est-à-dire que c'est devenu un sujet, il faut regarder Game of Thrones, et puis surtout, il faut le regarder très très vite, sinon vous faites spoiler, comme on dit, vous faites balancer l'intrigue. Et c'est devenu donc une espèce de course contre la série, si j'ose dire. Tout le monde doit regarder Game of Thrones, et d'ailleurs ceux qui ne la regardent pas le revendiquent, comme si c'était presque un geste politique révolutionnaire de ne pas regarder Game of Thrones. Du coup, ça devient un geste politique révolutionnaire de regarder Game of Thrones, parce que c'est finalement ce qui est le plus cool. Voilà. Enfin bon, bref, c'est un grand sujet populaire.
Alors, HBO et la prod ont élaboré un tournage ultra secret avec des drones au-dessus des décors naturels. Ils ont également tourné plusieurs scènes inutiles et plusieurs fins pour que même les comédiens et les techniciens ignorent totalement comment l'histoire se termine. Qu'est-ce que vous savez, vous, de l'histoire ?
Absolument rien.
Super.
J'ai mes théories, comme tout le monde, mais absolument rien. C'est évidemment un des plaisirs de Game of Thrones, c'est qu'on s'attend à être surpris. Et pas seulement par la mort des personnages, il faut espérer qu'il y ait des rebondissements dans tous les sens.
Y a déjà des fans qui annoncent qu'ils vont être déçus.
Oui, bah évidemment, on sera déçu. On peut toujours penser à Lost qui a déçu tout le monde et quand on le revoit aujourd'hui, on se dit que c'était pas si décevant que ça. C'est toujours difficile parce qu'on a projeté tellement de fantasmes, il y a tellement de théories que bah, nécessairement, il y a la majorité des gens qui se seront trompés et donc qui seront déçus.
Mais alors, il y a tellement, je m'adresse aux spécialistes, il y a tellement d'intrigues à élucider entre les marcheurs blancs, la paix dans les sept royaumes, le sort de chaque famille. La série qui était réputée plutôt lente s'annonce intense. Est-ce qu'on risque pas d'avoir une fin ultra précipitée?
Alors, c'est ce qui s'est passé avec la saison dernière. Déjà qu'elle est 10 fois plus vite, où les personnages parcouraient le royaume en 10 minutes chrono, qu'on leur avait expliqué que c'était plusieurs mois pour aller d'un bout à l'autre. Et évidemment, plus on va aller, plus ça va aller vite. Sauf quand même, ils ont réussi à simplifier l'intrigue assez largement dans la dernière saison. Ils ont zigouillé plein de personnages, ils ont simplifié tout le monde, s'est regroupé. Donc moi, je suis pas négatif. Je pense qu'ils vont y arriver. Ils ont 6 fois une heure et des poussières. Il y a des épisodes qui vont faire 80 minutes. Ben, je pense qu'ils vont réussir à retomber sur leurs pieds.
Un seul épisode ce soir ?
Ah oui, c'est un par semaine.
Alors Libération écrit à ce sujet-là. L'ultime saison de la série Game of Thrones pourrait être le dernier orgasme collectif et simultané du genre. Un phénomène rendu obsolète par l'explosion des plateformes comme Netflix. Vous êtes d'accord avec ça ?
C'est un risque, effectivement. Mais il y en aura peut-être une autre, une grande série comme ça qui réunira tout le monde. Après tout, on avait dit qu'à la fin des Sopranos, c'était la fin de l'âge d'or, que ça y est, il n'y aurait plus de grandes séries, etc. Et finalement, on a trouvé une autre. On aime bien être toujours, hein, c'était mieux avant. Sauf qu'il y aura peut-être des choses très bien après.
Game of Thrones, c'est sur OCS, Game of Thrones, que je le prononce bien, c'est sur OCS, c'est dans exactement 8h22. Merci Pierre Langlais d'avoir été avec nous.
Merci.
Vous êtes membre de l'Association des critiques de séries. À suivre, le jeu à la télé comme sur les plans. Jean-Luc Reichmann va jouer Nuit d'Ivresse en direct du théâtre et la télé le 23 avril prochain. Après une tournée triomphale en France, il sera mon invité média dans quelques minutes. Sans oublier évidemment la chronique média de Renaud Revel et des infos sur l'avenir d'Arte.
Vous écoutez votre grand journal du soir, 18h40. On va parler médias avec vous, Philippe Vandel, et votre invité.
Bonsoir Jean-Luc Reichmann.
Bonsoir, comment allez-vous, monsieur
Vandel? Je vais très bien, faut-il vous présenter, figure du jeu télé en France. Vous avez présenté 5 ans Les Amours sur la 2, vous êtes passé sur TF1, Attention à la marche pendant 9 ans, et maintenant Les 12 coups de midi, qui en est à sa 7e saison. Mais votre actu rassemble le théâtre et la télé. Vous serez en direct mardi 23, pas celui-ci, le suivant, à 21h sur TMC avec une pièce de théâtre, Nuit d'Ivresse.
Ouais.
Énorme succès de Josiane Balasco, l'un des plus grands succès du théâtre français, en direct depuis le théâtre de la Michaudière à Paris.
Ouais.
C'est pas votre première.
Non.
Ça fait suite à une tournée de combien de dates ?
Alors en tout, on a fait 130 dates, on a fait 80 dates à la Michaudière, 50 en tournée, complet un petit peu partout, et puis on s'est dit, tiens, on va boucler la boucle, et puis surtout, donner l'opportunité aux personnes qui n'ont pas pu se déplacer, soit pécuniairement, parce qu'ils n'avaient pas les moyens, parce que c'était trop loin, eh bien, voilà, qu'il y ait un accès directement chez eux, dans leur canapé, ce soir-là.
Alors, pour qui ne connaît pas Nuit d'Ivresse, c'est quoi ? C'est du boulevard, ou c'est dans la ligne, sarcastique, débronzé, ou du Père Noël est une ordure ? Je pense à Balasco.
Ouais, c'est un petit peu tout ça, Philippe. Et c'est à la fois on rit, à la fois on est ému, à la fois c'est une tendresse énorme, parce que ce sont 3 solitudes dans la nuit, c'est un voyage au bout de la nuit, comme dirait Céline.
Alors,
de 3 solitudes, un homme qui sort de prison, un homme qui est un grand animateur de télé, et un barman. Et à partir de ce moment-là, effectivement, le gars qui sort de prison, il n'a pas la télé, et l'animateur télé, eh ben, il se retrouve confronté à une vraie aventure humaine.
Mais qui est Balasco ?
Balasco, c'est la majorette, mais la majorette est remplacée par un homme.
Parce que c'est ça qui est nouveau, ce qui est dingue,
évidemment.
C'est que la pièce jouée par Balasco l'ermite,
oui.
C'est vous qui l'avez fait réécrire.
Oui, bien évidemment.
Bien évidemment. Bah, tiens, elle a dit oui. Elle a dit oui tout de suite.
Elle a eu un petit appel d'air d'abord. Elle a dit faut voir.
Ouais.
Et 2 jours plus tard, Philippe, dans ma boîte mail, j'avais cher Jean-Luc, voici si ça vous va après votre proposition de mettre un homme à la place de la majorette. Mais ça, ce sont mes combats, voilà, pour la différence, contre l'intolérance. Et elle a été touchée par ce combat. Et vous allez voir, on rit, on pleure et on s'émeut. Et à la fin, Philippe, de la première au théâtre de la Michaudière, elle s'est levée avant que le rideau ne tombe, puisqu'elle connaît la pièce par cœur, vu qu'elle l'a écrite. Elle a hurlé dans le théâtre de la Michaudière, qui était plein comme un œuf, « Jean-Luc, mais quelle bonne idée tu as eue !»
C'est pas vrai.
Et là, j'ai commencé un peu à pleurer, pour tout vous avouer. Et il y a les frissons qui sont montés. Et d'un seul coup, tout le monde a applaudi, a hurlé. Effectivement, c'était cette idée de remplacer la majorette par un homme. Et à la fois, ça fait un cocktail explosif où on va s'amuser mardi 23.
Racontez pas la fin. Je veux pas savoir si vous vous mariez à la fin ou pas du tout.
Ah mais non, ça va être la surprise quand même.
C'est en direct.
Ouais.
C'est à la fois de la télé et du théâtre.
Ça fait peur.
Vous jouez. Ça va être ma question.
Ouais.
Ça vous fait peur ?
Ouais, ça me fait peur, mais j'aime avoir peur.
Si, ah, d'accord. Si
vous êtes
non, parce
au courant.
Qu'à la télé, vous n'avez plus peur. Non, mais... À la télé, vous êtes tellement
non, c'est pas, je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Vous savez, j'ai toujours...
Alors attendez, je vous ai vu enregistrer, pardon de ce compliment, j'ai rarement vu un mec qui était autant dans le contrôle.
Je suis dans le contrôle, mais j'essaye de contrôler tous les paramètres. Mais chaque accident est un cadeau, en revanche. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose d'imprévu, moi, ça me plaît et j'y vais. Donc, effectivement, c'est un énorme risque de ne pas avoir de voix, de tomber, de qu'il y ait quelque chose et un imprévu. C'est la seule soirée où on va pouvoir offrir aux téléspectateurs un vrai spectacle vivant. Ça se perd et moi, ça fait partie de mes combats.
Vous allez jouer pour le théâtre ou pour la télé? Je vais dire, on porte davantage la voix au théâtre qu'à la télé. Vous allez mettre, en plus, vous avez du coffre, vous allez mettre quel niveau de voix?
Je vais mettre l'énergie qui sera celle-là ce soir-là. N'oublions pas qu'un spectacle vivant, et vous n'allez pas me croire, mais c'est différent chaque soir, Philippe.
Ouais.
Mais chaque soir, et ce soir-là, tout peut arriver.
Mince.
C'est en direct. Ah bah oui, mince.
Même si vous tombez alors.
Non, c'est pas grave, je ferai attention à la marche. Mais à un moment donné, quoi qu'il en soit... Tout peut arriver, et c'est ça qui est fort. C'est cette écoute sur la différence, sur les personnages, sur l'ouverture sur l'autre.
Léo Mattei, la série de TF1 que vous avez créée avec votre compagne,
oui.
Et dans laquelle vous avez le rôle principal, ça continue la saison prochaine?
Ça se passe super bien.
Ça continue?
Oui, ça va
ah bon,
bien.
Ah bon,
on est en écriture.
Je veux dire pourquoi je pose la question.
Bah
c'est
ouais,
pas que je m'inquiète.
Laissez
c'est que...
tomber les ragots.
Mais c'est pas les ragots, dis donc. C'est un des meilleurs sites... Un des mieux informés, c'est Atlantico.
Ouais.
Je raconte que la série, elle se déroule dans l'univers des brigades de la brigade des mineurs.
D'accord.
Et selon Atlantico, vous pourriez prendre la décision d'arrêter la série après l'incarcération pour pédophilie de Christian Quesada, qui était le candidat champion de votre jeu Les 12 coups de midi. Alors, qu'en
Alors
est-il
moi,
exactement?
Moi, je ne suis pas sur Atlantico, je suis sur Pacifico, vous
d'accord.
voyez. Donc,
non, mais il y a de bonnes infos, donc c'est pas
non,
vrai.
Non, mais pas du tout, mais pas du tout. On s'entend très 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 bien avec TF1.
Super.
N'oublions pas qu'ils ont eu, bien sûr, l'élégance de m'offrir un rôle, il y a maintenant 7 ans, dans Léo Mattei. Ils n'étaient pas du tout obligés d'adhérer à mes combats.
Ah non, mais moi, je parle
aujourd'hui,
pas de ça du tout.
Ils sont encore main dans la main avec moi. Nous travaillons ensemble. Je vous rassure, appelez tout de suite Atlantico. Nous sommes en écriture des prochains Léo Mattei, monsieur Vandel.
Non, parce qu'en fait, il n'y a aucune malice là-dedans. C'est qu'au
Mais
lendemain
non.
de l'annonce de l'incarcération de Christian Quesada, vous avez fait part sur votre compte Facebook, je vous cite, de cette rage qui s'empare de moi.
Ouais.
Et je me suis dit, pourquoi de la rage? Franchement, vous y êtes pour rien.
Mais si, ça... Mais attendez, vous n'avez pas été jusqu'au bout de ma déclaration. Ça me donne encore plus de force pour aller au combat. Donc voilà, je lutte, ça fait partie de mes combats. Et vous inquiétez pas, Mattei est bel et bien dans la place, monsieur Vandel.
J'étais pas inquiet du tout. Merci beaucoup, Jean-Luc Reichmann. Je le rappelle, Nuit d'Ivresse, ça sera en direct. Si vous voulez Jean-Luc Reichmann se casser la jambe sur scène ou pas, c'est le mardi 23 avril
on
à 21h sur TMC.
Ouais, et c'est en direct, vous allez voir. Et je vous réserve quelques petites surprises.
Putain, c'est pas facile de le faire taire celui-là. Hein. J'étais ravi que vous soyez là. Salut.
Ciao.
Vous êtes bien sur Europe 1, il est 18h46, Philippe Vandel, suite et fin de notre page média avec Renaud Revel.
La chronique média hebdomadaire de Renaud Revel, bonsoir Renaud.
Bonjour Philippe.
On va parler d'Arte, cette chaîne culturelle franco-allemande qui a été créée en 92. Question, va-t-elle rentrer dans la future holding de l'audiovisuel public aux côtés de France Télévisions, de Radio France ou encore de France 24? Cette hypothèse a été avancée dernièrement par le ministre de la Culture Franck Riester dans les colonnes du JDD et cette hypothèse a mis le feu aux poudres en France comme en Allemagne où ses dirigeants bataillent. Et vous, Renaud Revel, vous nous dites qu'un homme est à la manœuvre, le président du conseil de surveillance d'Arte, Bernard-Henri Lévy, BHL, qui joue un rôle déterminant.
Et oui Philippe, on le sait très très peu, mais cela fait 25 ans, le mandat le plus long de l'audiovisuel en France, avec le patron de M6, que l'écrivain et philosophe préside ce conseil. C'est un conseil qui joue un rôle moteur dans la vie d'une chaîne dont BHL est le gardien du temple. Il en connaît absolument depuis ses origines. Rien ne se fait d'important à Arte, en effet, sans que Bernard-Henri Lévy mette son nez ou sa patte. Car ce conseil de surveillance, contrairement à d'autres dans le monde de l'entreprise, n'a rien d'un organisme croupion. Il fixe les statuts, veille aux grandes orientations de la chaîne et de sa stratégie, discute avec l'État des moyens dont Arte dispose chaque année, c'est environ 500 millions d'euros. Et enfin, mais c'est le plus important, il choisit et nomme son président ou sa présidente, comme c'est le cas aujourd'hui avec Véronique Kella.
C'est en gros un faiseur de roi.
Tout à fait. Jérôme Clément, qui dirigea près de 20 ans Arte, lui doit ainsi ses multiples reconductions, confident et visiteur du soir, successivement de François Mitterrand, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, François Hollande et aujourd'hui Emmanuel Macron. BHL a toujours été aux avant-postes pour défendre cette chaîne.
Mais je reviens à la holding.
Si j'ai bien compris, BHL est contre cette sorte de fusion, de rapprochement entre Arte et France Télévisions. Pourquoi une telle hostilité?
Tout simplement parce que les dirigeants allemands et français d'Arte, une chaîne, rappelons-le, qui est née sur les fonds baptismaux de la réconciliation entre les deux pays, estiment qu'ils ont tout à perdre dans cette fusion. Leur indépendance, une liberté dans ses choix de programmation et un statut de quasi-extraterritorialité qui lui permet notamment d'échapper au CSA, qui ne la contrôle pas, aux politiques, qui lui fichent une paix royale depuis bientôt 30 ans. Franck Riester l'a d'ailleurs bien senti, qu'il est allé sonder les dirigeants allemands de l'ARD et de la ZDF, partenaires d'Arte Outre-Rhin. Ces derniers pondaient quelques jours plus tard un communiqué où ils disent tout simplement leur hostilité à cette idée d'intégration. Quant à BHL, qui rameute les Allemands et mobilise ses réseaux, il abreuve depuis des semaines Emmanuel Macron de SMS et de messages divers, avec l'espoir que celui-ci préserve le statut d'une chaîne sanctuarisée depuis sa création, ce qui d'ailleurs devrait être le cas, dit-on, du côté de l'Élysée.
Affaire à suivre, comme on dit toujours dans ces cas-là, mais celle-ci également, nous la suivrons. Merci beaucoup, Renaud Revel. À la semaine prochaine.
Europe 1.
Merci d'être avec nous sur Europe 1, que vous soyez au volant ou pas, car dans un instant, tout roule. La chronique auto de Pierre de Villeneuve. On va parler de la toute nouvelle Mercedes classe B.
Autre duo, Philippe Vandel et Pierre de Villeneuve qui nous a rejoint comme chaque dimanche, il est 18h54.
Tous les dimanches soirs, on passe derrière le volant avec Tout roule, la chronique auto de Pierre de Villeneuve. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors aujourd'hui, vous vouliez nous parler de la toute nouvelle Mercedes classe B.
Oui, je sais que vous aimez cette marque depuis toujours, Mercedes.
Pas depuis toujours, mais je l'aime bien.
Ouais, on a parlé à l'automne de la classe A. Donc voilà la toute nouvelle classe B. Elle avait été présentée au Salon de Paris, la voici commercialisée. Et comme souvent chez les marques premium, le changement n'est pas radical. Sur le style, on est donc sur cette, on va dire, grosse compacte, 4m42, certains l'appellent monospace. Moi, j'y vois rien d'un monospace. Il y a un capot long, donc pas de ligne monovolume. Il n'y a pas les attributs des monospaces des familles, c'est-à-dire trois fauteuils indépendants et coulissants à l'arrière. Il n'y a pas de tablette articulée derrière les sièges. Il n'y a pas de multiples rangements de porte-gobelets. On n'est pas dans la voiture où règnent les sièges bébés, les traces de pieds derrière les dossiers des parents et les traces de Nutella sur les portières. Non, c'est pas si joyeux que ça. En fait, cette voiture me rappelle la Golf Sports Van, qui est une Golf... On l'a gonflé à l'hélium, là c'est pareil, on a pris une classe A et on l'a rendue plus grande.
Donc cette voiture ne s'adresse pas aux familles, je vous suis.
Ça dépend, à partir de 3 ça devient touchy, surtout s'il s'agit de joyeux lurons comme les miens par exemple. À 2 ça va, c'est vrai que les places arrière sont sympas, on peut y tirer les jambes, se mettre à l'aise. C'est aussi valable pour 4 adultes, en fait c'est la voiture pour le couple qui avait une classe A, qui commence à voir ses petits grandir, devenir ado par exemple. C'est aussi, et ça c'est un vrai constat, la voiture pour les anciens propriétaires de grosses Mercedes, les S, les E, les C, et qui passaient un certain âge, veulent une voiture un peu plus courte sans pour autant perdre de confort.
Mais c'est une voiture pour rester en ville ou c'est une routière?
C'est le bon compromis, c'est la voiture idéale pour partir loin, très loin, surtout dans la version 200D 150 chevaux que j'ai essayé, diesel. On file comme dans un train, les assistances de danger sont là pour veiller au grain. Si vous avez le toit panoramique, c'est une vraie invitation au voyage. Et puis c'est une auto très maniable dans les centre urbain. Elle a hérité, malgré la traction avant, du formidable rayon de braquage des Mercedes, ce qui fait que en fait, elle tourne sur place comme une toupie.
Alors d'un mot, il n'y a que vous pour défendre tout le temps autant le diesel. Ça sera l'objet d'une prochaine chronique. J'adorerais vous entendre sur le sujet.
Je ne suis pas si drastique que sur le diesel.
Je sais, c'est pour ça que c'est intéressant. Qu'est-ce qui se change vraiment par rapport à la précédente classe B?
Alors, la connectique, la beauté intérieure, cette dalle immense derrière le volant qui abrite les compteurs, l'écran central, les indications, c'est devenu l'ADN d'ailleurs du style Mercedes des années 2015-2020. Le confort, alors vraiment, et la position de conduite surélevée encore plus marquée, et puis les moteurs toujours plus efficients. 136, 163 chevaux essence en collaboration avec Renault, et puis 116, 150, 190 chevaux en diesel, avec des taux de CO2 et de NOx toujours de plus en plus faibles.
Alors ce qui gêne chez Mercedes, comme toujours, c'est le prix.
Alors ça, vous savez Philippe, c'est la phrase que vous lisez dans les magazines automobiles. Mais premièrement, j'ai envie de dire, est-ce que dans Elle ou dans Vogue, vous avez déjà vu un article sur un sac Hermès avec à la fin « Ce qui gêne, c'est le prix ».
Non.
Le premium, c'est le premium. Mercedes, c'est la marque, mais on paye la qualité des matériaux, la fiabilité, le réseau Mercedes, ses services d'assistance. C'est tout un panel et il est là vraiment. Et puis deuxièmement, si je regarde la concurrence, cette voiture en version 200D, elle commence à 36 850 euros. Concurrence Renault, le Scénic Intense 150 chevaux, il est à 36 300 euros. Ça fait 500 euros de moins. Concurrence Volkswagen, le Touran, équivalent à 33 600. On n'est plus à 10 000 euros de plus comme avant, c'est vrai, chez Mercedes. Donc, j'ai envie de dire du calme ou alors même pouet pouet camembert.
Pierre de Villeneuve, tout roule. On vous retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Europe 1.
Et dans un instant, c'est le journal de 19h de Chanel Petit. A tout de suite sur Europe 1.
18h, 20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
18h, 20h.
Philippe Vandel sur Europe 1.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour de l'info et des infos. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, a été arrêté jeudi par la police britannique. Un prétexte pour le livrer aux Américains. On en parle avec Stéphanie Gibaud. Elle est la lanceuse d'alerte de l'affaire de fraude fiscale de la banque suisse UBS. Banque qui vient d'être condamnée le mois dernier à une amende record de 3,7 milliards d'euros. Elle connaît bien Julian Assange. Elle sera avec nous à 19h15. Et puis, dans la dernière demi-heure, nous débattrons avec nos experts autour de deux questions cruciales. Demain, quelles annonces va faire Emmanuel Macron pour clôturer le grand débat? Et cette question, quel est le premier bilan de la loi anti-casseurs qui est entrée en vigueur il y a 3 jours, juste à temps pour les manifs d'hier?
Et réagissez à l'actu de ce dimanche 14 avril, par exemple avec le hashtag Europe 1 sur Twitter. Il est 19h, bon début de soirée à tous. Le journal, Chanel Petit, Philippe Vandel.
Bonsoir Chanel.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Au sommaire de votre journal de 19h.
Le président Macron s'exprimera demain à 20h à la télévision, puis tiendra une conférence de presse mercredi, on vient de l'apprendre. Des annonces très attendues pour calmer la colère des gilets jaunes. Certains ministres sont reçus à l'Élysée ce soir. L'appel au secours des urgences de Paris, grève illimitée à partir de minuit ce soir. Les infirmiers et les aides-soignants réclament une augmentation de salaire et plus de sécurité. 42 km de la sueur et de la fierté. Le marathon de Paris aujourd'hui, des champions éthiopiens, mais aussi des milliers de personnes, plus comme vous et moi, qui ont tout donné pour aller jusqu'au bout. Et puis en cette période de vacances scolaires, vous vivez peut-être dans l'angoisse de ne pas voir arriver vos bagages sur le tapis roulant de l'aéroport. La technologie vient à votre rescousse.
Europe 1.
Cela faisait des jours qu'on attendait cette information. On sait depuis quelques minutes quand Emmanuel Macron va s'adresser aux Français.
Ce sera demain soir à 20h, une allocution à la télévision. Virginie Riva, un communiqué de l'Élysée vient de tomber.
Oui, et dans cette allocution, fait savoir l'Élysée, le président annoncera les chantiers d'action prioritaires et avancera les premières mesures concrètes. Intervention en 2 temps, car mercredi, Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse à l'Élysée. Les choses se précisent donc, alors qu'une réunion a lieu ce soir à 20h à l'Élysée avec une partie des membres du gouvernement. Information non confirmée du côté de Matignon, mais un conseiller nous fait savoir que son ministre y sera bien ce soir. Réunion qui sera sûrement suivie d'un dîner pour les derniers calages et surtout pour informer ces quelques membres du gouvernement. Visiblement, l'Élysée ne veut pas reproduire la séquence du 10 décembre lorsque les ministres ont découvert en direct les annonces présidentielles. Pour l'instant, aucun arbitrage présidentiel ne filtre, mais ce soir, l'entourage d'Emmanuel Macron fait savoir que c'est un nouvel acte et que des changements en profondeur vont être lancés. On parle de baisse de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes, de réindexation des petites retraites, de mieux entendre les besoins des territoires, d'un tournant écologique. Emmanuel Macron condamné à surprendre pour calmer la colère des gilets jaunes et redonner un projet au pays après plusieurs mois de débats.
Merci Virginie Riva du service politique d'Europe 1. Et en attendant la parole présidentielle, l'opposition met la pression. Raphaël Glucksmann, par exemple, tête de liste du Parti Socialiste et du mouvement Place Publique pour les élections européennes, reprochait au chef de l'État ce matin sur Europe 1 son isolement.
Il faut effectivement changer nos institutions. Il faut qu'on ait une démocratie qui respire. Et il faut qu'on arrête aussi de considérer que les gens sont des enfants qui ont besoin d'un père. On n'a pas besoin d'un père de la nation. On a besoin d'une démocratie qui respire. On a besoin d'une démocratie qui fonctionne. On a besoin d'un dialogue social qui fonctionne. Jupiter, dans son palais, a déclaré « Mais moi, je n'ai pas été élu président pour discuter avec les syndicats. » Il a fait entrer la Ve République dans une phase terminale. Et c'est le syndrome de cette présidence monarchique qui considère qu'en gros, une fois qu'on est élu, on peut décider de tout pendant 5 ans. C'est pas comme ça que vit une démocratie moderne. Et donc la promesse qui avait été faite, qui était de moderniser la démocratie française, il est temps qu'elle soit tenue, parce que sinon notre pays va exploser. C'est pas possible qu'à chaque fois qu'il y ait une crise sociale, on ait l'impression que le régime tout entier va s'effondrer.
Raphaël Glucksmann ce matin au grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Nicolas Hulot et 15 autres personnalités signent une tribune dans le journal du dimanche aujourd'hui pour un sursaut politique sur les questions de transition écologique et de justice sociale. Elle propose notamment d'encourager la rénovation énergétique pour réduire les factures et créer de l'emploi.
Nous en parlions à ce micro, les infirmiers et aides-soignants des urgences de plusieurs hôpitaux parisiens en grève illimitée à partir de ce soir minuit.
Grève à la Pitié-Salpêtrière, à Saint-Louis ou encore à la Riboisière, à l'appel de trois syndicats, Sud, CGT et FO. Ils dénoncent des conditions de travail déplorables qui ne cessent de s'empirer. Le docteur Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, demande des actions immédiates.
Nous, ce que nous demandons, c'est un plan d'urgence pour les urgences. Ça fait 20 ans qu'on tire la sonnette d'alarme, ça fait 20 ans qu'on réclame la même chose. Et en 20 ans, la situation s'est aggravée, puisque le nombre de passages aux urgences en 20 ans a doublé sans que les effectifs doublent. Et entre-temps, la situation d'hôpital s'est dégradée. Moins de lits, moins d'effectifs. Mais là, il y a une revendication qui est forte. C'est la reconnaissance de la pénibilité avec une demande d'augmentation de salaire par le biais d'une prime. Et vous savez, là, en fin de semaine, il y a un préavis de grève de l'ensemble des syndicats pour toute l'assistance publique contre un plan de restructuration de l'assistance publique qui va se traduire par 1000 suppressions d'emplois par an pendant 5 ans. Comment faire plus avec moins? C'est pas possible.
Le docteur Christophe Prudhomme qui était votre invité, Philippe Vandel, ce soir sur Europe 1. De son côté, le directeur de l'APHP, Martin Hirsch, a promis 45 postes supplémentaires. Pas assez, répondent les syndicats. Une réunion de négociation doit avoir lieu demain entre la direction et les représentants syndicaux.
Europe 1. Dans un instant, on revient sur le marathon de Paris à la rencontre de ceux qui sont allés au bout d'eux-mêmes pour finir la course.
Il est 19h07, la suite du journal sur Europe 1, c'est avec vous Chanel Petit et Philippe Landel.
Un doublé éthiopien au marathon de Paris ce matin.
Abra Milo pour les hommes en 2h07, Gelete Burka pour les femmes en 2h22. La Française Clémence Calvin, elle, est arrivée quatrième, a battu le record de France en 2h23 et 41 secondes. On ne sait pas encore si ce record sera homologué. La vice-championne d'Europe est en ce moment au cœur d'une enquête pour des soupçons de dopage. Mais le marathon de Paris, ce ne sont pas que des champions. Pierre Herbulot est allé sur la ligne d'arrivée à la rencontre de ceux qui ont eu un petit peu plus de mal, mais qui sont quand même allés au bout.
Des éclats de rire, des crises de larmes, sur la ligne d'arrivée, les nerfs des coureurs lâchent juste avant leurs jambes. Une douleur au genou, un sourire béat et une médaille autour du cou. Léa vient de boucler son premier marathon en 4h15 et a l'air d'avoir l'énergie d'en courir un deuxième.
Je suis super contente, je suis très fière, je suis très très fière de l'avoir fini et je pense qu'il y a aussi la dopamine qui joue. J'ai énormément de bonheur à donner au monde entier.
C'est quoi le sentiment sur les derniers kilomètres?
Il y a beaucoup de douleur. Enfin, les 5 derniers kilomètres, c'est difficile. Mais on sait aussi qu'on va arriver. Et j'avais plein de gens pour me soutenir sur le chemin. Donc c'était génial. C'est un peu une étape dans sa vie où on se dit ça y est, j'ai réussi, je suis finisher, j'ai fait un marathon.
En gros, le chrono, on s'en fiche. N'en déplaise à Pierre de Coubertin, le marathon, l'important, c'est de le terminer. C'est ce que voulait prouver Michel, 80 ans et 2 jours, qui boucle sa course en 6 heures.
Faites du bruit, 80 ans pour papy, c'est quand même formidable. Hein. Il faut montrer aux jeunes qu'il faut quand même peut-être se mettre à faire du sport et tout ça pour être en bonne santé, parce qu'on ne fait pas de marathon sans entraînement. Et puis, bon, peut-être laisser un peu le téléphone et aller courir. Hein.
Si ça peut en inspirer certains, en tout cas les inscriptions du Marathon de Paris 2020 sont déjà ouvertes et Michel, lui, l'a promis, il sera de la partie.
Le reportage de Pierre Bulot, 49 000 personnes ont participé à ce Marathon de Paris aujourd'hui sur 60 000 inscrits.
Donc il y en a 11 000 qui ne sont pas venus, c'est pas vous, ça arriverait.
Visiblement, non.
Tout à fait autre chose, c'est l'angoisse de nombreux vacanciers, ne pas retrouver sa valise mise en soute pendant un voyage en avion.
Oui, on a tous connu ce petit moment d'angoisse quand les bagages tardent à arriver sur le tapis roulant. Ce soir, on vous donne quelques astuces pour voyager en toute détente, car aujourd'hui, la technologie vous permet de suivre vos bagages en temps réel. Aurélien Fleurot.
Vous connaissez peut-être l'étiquette placée sur votre valise qui permet de quasiment la suivre en temps réel via votre téléphone. Il y aura bientôt le bagage intelligent avec une puce intégrée qui fournira une sorte de carte d'identité de votre valise. Mais ce qui se développe énormément en ce moment, ce sont les robots, les chats en ligne à l'image de Louis, le chatbot d'Air France, qui répondent en direct à vos interrogations, comme l'explique Sergio Colella, directeur Europe de Cita, société à l'origine de ces solutions informatiques.
On a aussi mis en place des applications qui permettent en chat de communiquer entre la compagnie aérienne et le passager pour que le passager puisse, par exemple, à une escale, être sûr que son bagage suit la même destination que lui-même. Et ces technologies sont de plus en plus plébiscitées par les passagers parce qu'elle donne un niveau de confort et d'information qui n'a rien à voir avec les technologies plus traditionnelles.
Depuis quelques mois, le règlement de l'IATA, l'Association internationale du transport aérien, a augmenté le niveau d'exigence dans la traçabilité des bagages. Un enjeu financier pour le secteur puisque même si ce chiffre a été divisé par deux en quelques années, les frais engendrés par ces incidents se sont élevés à 2 milliards d'euros en 2018.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Une sortie dans 141 pays, des épisodes vus par près d'un milliard de personnes. Ces chiffres qui donnent le tournis, ce sont ceux de Game of Thrones. L'ultime saison de la série qui mêle médiéval et fantastique sort aux États-Unis ce soir. En France, les plus mordus pourront la découvrir cette nuit. Chaque épisode de la saison précédente a attiré 30 millions de personnes.
Et ce sera cette nuit à 3h du matin, pile sur OCS. C'était le journal. Je voulais dire que c'était le journal de Chaîne Petit, je l'ai
dit.
Et c'est la météo de Valérie Darmon. On a tous été troublés par Game of Thrones. Alors Valérie, la météo aujourd'hui, il a fait beau quasi partout. Tout ça, c'est bien beau, mais demain.
Ce sera nuageux vraisemblablement de la Bretagne au sud de la Garonne avec quelques averses le soir près du littoral. Mais partout ailleurs, vous bénéficierez d'un temps bien ensoleillé malgré la présence toujours de quelques cumulus menaçant des Alpes frontalières à l'Italie et à la Corse. Les gelées seront de moins en moins nombreuses, se limitant au centre de la France avec moins 2 à 0 degrés. Il fera 1 à 8 ailleurs et l'après-midi, grâce au vent qui tourne au sud, enfin, le redout va se confirmer avec 14 à 20 du nord au sud, 23 en pointe sur le sud de l'Aquitaine, où on se situera 3 degrés au-dessus des normales de saison. Enfin, puisque les températures commencent à remonter demain.
Ah. Enfin, merci Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Avec vous, Simon Rubin, le journal des sports. Bonsoir.
Bonsoir.
Et vous commencez par du football. La course au podium en Ligue 1 bat son plein.
Et on va retrouver notre correspondant du côté de Saint-Etienne, Anthony Perel. Anthony, il y a comme un petit parfum d'Europe du côté de Saint-Etienne. Ce soir, victoire des Verts, 3-0 sur Bordeaux.
Oui, grâce à ce précieux succès, l'ASS réalise une très belle opération. D'abord, les Verts récupèrent leur quatrième place puisque Marseille était passé devant au classement hier. Et surtout, Saint-Etienne fait un mini-break dans la course aux places européennes. L'ASS relègue la sixième place à 5 unités derrière. Cerise sur le gâteau, les Stéphanois reviennent à 3 points de Lyon et du podium. Tout s'est joué en seconde période. Les Verts ont ouvert le score grâce à leur meilleur buteur, Wahbi Khazri, qui a transformé un pénalty. C'était à la 55e minute. Cela faisait pratiquement 3 mois que le Tunisien n'avait plus marqué. Et puis, dans le dernier quart d'heure, le défenseur Debuchy s'est offert un doublé. Score final 3-0, victoire logique pour Saint-Etienne.
Et dans les autres rencontres de l'après-midi, Rennes concède le nul 0-0 contre Nice et Montpellier revient 6e après un succès sur Toulouse. Ce soir, c'est peut-être enfin le jour J pour le PSG. Les Parisiens visent le titre en visite à Lille, mais ce ne sera pas simple, prévient l'entraîneur Thomas Tuchel.
Tout le monde sait que c'est un match très très dur à Lille, contre Lille. Pour ça, c'est absolument nécessaire que nous sommes préparés bien et que nous jouons très très attentifs et avec beaucoup de qualité. Les choses sont comme ça et c'est notre défi d'être préparé contre Lille. On sent bien et c'est clair que c'est un match très dur et difficile.
Propos recueillis par Julien Froment.
Cyclisme, victoire du Belge Philippe Gilbert sur Paris-Roubaix.
Oui, victoire qui s'est dessinée à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée lorsqu'il est parti accompagné de l'Allemand Nils Polite. Victoire au sprint pour le Wallon de 36 ans et peut-être l'une de ses plus belles victoires.
Gagner ça après toutes les courses que j'ai pu gagner, les courses d'un jour, c'est les courses qui me font rêver. C'est un grand moment. Voilà. Mais il y a la manière aussi. C'est important pour moi de gagner avec le panache. Donc je la mettrai quand même très haut dans la hiérarchie.
Philippe Gilbert interrogé par Axel May.
Et on va terminer ce journal des sports avec du rugby.
Et aucun qualificatif suffisamment fort pour décrire ce match presque irréel entre Toulouse et Clermont. À Toulouse, c'est le Stade toulousain qui l'a emporté. 47-44 face à Clermont, son dauphin. Le récit d'un match fou avec Patrick Anselmetti.
Ce match au sommet a tenu toutes ses promesses dans un stade plein à craquer. 10 essais ont été marqués, 5 de chaque côté. On a assisté à une orgie de jeu. Les deux équipes ont joué au chat et à la souris durant toute la rencontre, même si ce sont les Toulousains qui l'emportent au coup de sifflet final. Guitoun par deux fois, ainsi qu'Entaba, Colby et Gray ont marqué des essais pour Toulouse, alors que Damien Penaud a inscrit 4 essais pour Clermont, mention spéciale pour les liens internationaux. En tout cas, les deux équipes se sont très bien préparés cet après-midi pour les demi-finales européennes qui les attendent le week-end prochain.
Patrick Anselmetti et précision, Damien Penaud n'a pas marqué 4 mais 3 essais. Erreur compréhensible, il y en avait tellement, difficile de ne pas s'y perdre.
Oui, mais Guitoun était là. Merci beaucoup Simon Rubin, c'était le journal des sports.
Europe
Europe 1.
À suivre jeudi, son ami Julian Assange, retranché depuis 7 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres, a été arrêté par les autorités. Et ce soir, Stéphanie Gibaud, qui avait elle-même révélé la vaste fraude fiscale de la banque suisse UBS, monte au créneau. Elle dénonce la traque du fondateur de Wikileaks et alerte sur l'hypocrisie de la France dans la protection des lanceurs d'alerte. Témoignage dans un instant.
Il est 19h17 et on vous retrouve Philippe Vandel pour la suite de ce grand journal du soir avec votre invité pour parler de lanceurs d'alerte.
Il était réfugié dans une pièce de 10 mètres carrés sans fenêtre depuis bientôt 7 ans. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, a été arrêté jeudi par la police britannique dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Il a été aussitôt transféré au tribunal où il a été jugé coupable d'avoir violé les conditions de sa liberté provisoire. Bonsoir Stéphanie Gibaud.
Bonsoir.
Vous êtes l'une des personnes les mieux placées pour parler de cette affaire. D'abord parce que Julian Assange avait préfacé votre livre sorti en 2017. C'était La traque des lanceurs d'alerte. Et ensuite parce que vous êtes vous-même une lanceuse d'alerte, notamment dans l'affaire de fraude fiscale de la banque suisse UBS. C'était en 2008. Une banque qui vient d'être condamnée le mois dernier à une amende record de 3,7 milliards d'euros. Mais d'abord, on va parler de Julian Assange. Quel sentiment vous inspire son arrestation ?
Écoutez, à la fois beaucoup de surprise, c'était un vrai choc de voir cette arrestation donc par des policiers britanniques à l'intérieur d'une ambassade, et qui en l'occurrence est l'ambassade d'Équateur à Londres. C'est-à-dire qu'on reproche à Julian Assange de violer, oui, les conditions de son séjour à l'ambassade, alors qu'il est clair que il n'y a aucune charge qui ont été retenues contre lui jusqu'à présent. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne, enfin les juges britanniques disent en fait qu'il va être inculpé. On attend de voir quelles vont être les conditions, mais il est clair que s'il était extradé aux États-Unis, il risque la prison à vie dans un quartier de haute sécurité pour espionnage.
Alors pour l'instant, la Cour de Virginie aux États-Unis n'a retenu contre lui que l'accusation de conspiration pour avoir aidé à pirater un ordinateur de l'armée. Il risque 5 ans de prison au maximum. Mais vous dites que ça ne va pas s'arrêter là.
Excusez-moi, mais là je vous interromps parce que c'est justement un subterfuge et un prétexte. On veut faire croire aux citoyens sur la planète que il ne risque que 50 prisons. Mais comme je viens de vous le dire à l'instant, il aura un procès à charge et il sera inculpé d'espionnage qui risque une prison à vie aux États-Unis dans des conditions terribles.
D'un mot, je vais résumer ce qu'a été le scandale Wikileaks. Grâce à des complicités au sein de l'armée américaine, le site a publié des centaines de milliers de documents top secrets, notamment des infos sur l'armée au Moyen-Orient, avec notamment des récits de torture, de détention arbitraire et autre chose. Il y a également, qui pèse sur l'avenir de Julian Assange, l'affaire de cette femme, cette Suédoise, qui a porté plainte contre lui pour viol. Que pensez-vous de cette affaire ?
Alors moi, pour connaître Julian Assange, c'est pour ça que mon témoignage est quand même très important. En tant que femme, en tant qu'amie, en tant que soutien de Julian Assange, nous savons très bien qu'il y a eu 2 plaintes de viol de 2 femmes suédoises différentes. Ces 2 plaintes ne sont pas des plaintes pour viol, elles ont été des plaintes pour rapport sexuel non protégé, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis ces 2 femmes ont l'une après l'autre voulu enlever leur plainte. Je crois que la première a pu le faire très facilement et qu'il a été interdit à la deuxième de le faire. Donc vous savez, tout ça, c'est exactement le combat que nous menons depuis des années, parce qu'au lieu d'aller voir le contenu des informations qui sont publiées, on s'intéresse à discréditer les lanceurs d'alerte et ou les journalistes d'investigation, dont Julian Assange, c'est-à-dire des gens qui font un travail dans l'intérêt général.
Alors justement, puisque vous en parlez un mot sur le fond, aux États-Unis, Julian Assange commence à être lâché par ses premiers soutiens. Je vais citer par exemple le Wall Street Journal qui observe qu'Assange ne s'attaque qu'aux démocraties, jamais aux dictatures. Il n'y a aucune fuite sur Poutine, ni sur la Chine, ni sur la Corée du Nord. Est-ce que ça ne pose pas un problème pour quelqu'un qui se dit défenseur de la démocratie ?
Écoutez, on peut toujours avoir contre les gens qui se lèvent pour la vérité des voix qui se lèvent. Hein. Je le vois bien contre moi. J'étais agressée vendredi soir après avoir donné une conférence où j'expliquais la nécessité de lutter contre la fraude fiscale. Je me suis fait agresser par quelqu'un qui qui me disait avoir eu des comptes chez UBS à Genève. Donc si vous voulez, à chaque fois, on retourne la chose. Wikileaks n'a pas transmis que des informations qui venaient des États-Unis, et d'autres le disent aussi. Donc il faut quand même essayer de se poser la question de savoir à qui profite ce crime de charger en permanence Assange et Wikileaks.
En France, de nombreuses voix sont élevées pour demander l'asile politique pour Julian Assange. C'est transpartisan, hein, à gauche, même très à gauche, il y a Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. À droite, il y a Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France et dont vous allez faire partie, il faut le signaler, de la liste pour les européennes. Pourquoi, selon vous, la France doit-elle accorder l'asile à Julian Assange ?
Tout d'abord parce que nous sommes le pays des droits de l'homme sur la scène internationale, parce que nous luttons pour la liberté d'expression, pour la presse libre et indépendante, puisque liberté d'expression fait partie de notre constitution. On peut aussi ajouter que Julian Assange, dans l'ambassade d'Équateur, a demandé l'asile à monsieur François Hollande, président de la République, en 2015. Cet asile a été refusé. Nous sommes la sixième puissance mondiale et Wikileaks avait dénoncé que les gouvernements et les personnalités qui étaient monsieur le président Chirac, le président Sarkozy, le président Hollande avaient été écoutés par la NSA, l'agence de sécurité américaine. Et puis le troisième point, c'est que Julian Assange a un enfant en France et qu'on ne peut pas laisser des familles, des enfants, dans une cruauté telle. Nous devons être à la hauteur de ce que nous représentons sur la planète, donc le pays des droits de l'homme, le pays des libertés.
Je voudrais qu'on parle de vous maintenant, Stéphanie Gibaud. Vous êtes la lanceuse d'alerte de l'affaire de fraude fiscale de la banque suisse UBS. C'était en 2008, une banque qui vient d'être condamnée le mois dernier à une amende record de 3,7 milliards d'euros. Pas des millions, des milliards. Mais cette victoire, si j'ai bien compris, vous laisse un goût amer.
Moi, mon cas est très précis. J'ai dû aider sur ordre de fonctionnaires assermentés faisant partie du ministère des Finances à sortir pour le ministère des Finances des informations confidentielles appartenant aux serveurs d'UBS qui aujourd'hui ont aidé à prouver que cette banque a fraudé et qui ont permis donc de donner cette amende record. À côté de ça, comme l'affaire est devenue publique après qu'UBS m'ait licencié en 2012, hein, quand UBS a dû apprendre que je donnais des informations confidentielles au ministère des Finances, ils ont pris la décision forcément de me virer en vitesse. Eh bien, depuis que l'affaire est publique et que mon nom est associé à cette affaire UBS, il m'a été à la fois impossible de retrouver du travail. Donc quand vous êtes une maman seule qui élève des enfants, qui se retrouve sans travail, donc sans revenus, eh bien vous vivez une véritable descente aux enfers. En même temps, vous êtes traîné en justice par une des banques qui est la plus puissante au monde et l'État vous laisse aller en justice, vous abandonne complètement. Donc, j'ai été obligée de quitter mon appartement parisien. J'avais fait un appel il y a plus de 3 ans là-dessus en expliquant ma situation, notamment chez votre consoeur Élise Lucet de Cash Investigation. Personne n'a été là, personne n'a été à la hauteur des enjeux et de cette fraude fiscale. Ça se demandait si on est vraiment un pays qui lutte contre la fraude. Donc écoutez, plus de salaire, plus de revenus, plus d'appartements, minima sociaux depuis juillet 2014. Eh bien donc je suis séparée de mes enfants et je continue à me battre en justice puisqu'UBS a porté plainte contre moi à nouveau en diffamation. Et j'ai porté plainte contre l'État, j'ai gagné. Maintenant il est évident que je vais être obligée d'ouvrir une nouvelle procédure pour me faire reconnaître, c'est-à-dire pour que l'État rétribue mon aide à cette fraude fiscale.
Après avoir, je le rappelle, empoché 3,7 milliards d'euros. Je vous remercie Stéphanie Gibaud. J'ai donné le titre de votre livre, s'appelle « La traque des lanceurs d'alerte », préface de Julian Assange. C'était sorti chez Max Milo en 2017. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Merci beaucoup, Monsieur Vernel.
Europe 1.
À suivre notre débat, quelles annonces pour Emmanuel Macron, le président de la République, qui va s'adresser demain au pays à 20h, et comment sortir du grand débat sans décevoir? Autre question, le mouvement des Gilets jaunes va-t-il y survivre? On en parle avec mes invités dans un instant.
Votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h avec notre grand débat d'actu sur Europe 1. Débat cadré par vous, Philippe Bandel.
Oui, avec Émilie Raffoul qui est en route, elle est avec nous. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir Jean-Sébastien.
Bonsoir.
Vous êtes le fondateur d'Atlantico et une petite nouvelle dans ce studio et je m'en réjouis. Pauline Thévenot, vous êtes journaliste politique au Parisien, bonsoir.
Bonsoir.
Et j'ai souhaité vous recevoir car vous publiez un livre absolument passionnant, ça s'appelle Les apprentis de l'Élysée, c'est chez Plon, avec Jérémy Marot. D'un mot, qui sont les apprentis de l'Élysée?
Les apprentis de l'Élysée, ce sont toutes ces personnes qui ont accompagné Emmanuel Macron dans sa conquête du pouvoir et dans l'exercice du pouvoir dans les deux premières années de son quinquennat.
Voilà, mais en quoi sont-ils des apprentis ?
En quoi sont-ils des apprentis ? C'est qu'ils ont pris, avec Emmanuel Macron lui-même, un ascenseur politique ultra rapide, puisqu'ils étaient soit des conseillers ministériels, qui certes étaient dans le sérail socialiste depuis un moment, qui avaient eu l'expérience de la campagne pour la primaire PS de 2006 de Dominique Strauss-Kahn. Ce sont des parlementaires PS, d'anciens parlementaires PS, qui... Il le reconnaissait eux-mêmes, jouaient plutôt en deuxième division et qui, là, du coup, sont arrivés aux responsabilités.
Alors, elle n'est pas une apprentie. Elle vient d'entrer dans ce studio. Bonsoir, Émilie Raffoul.
Bonsoir, tout le monde.
Vous êtes journaliste et productrice à télévision à 5 bis production. Merci d'avoir été avec nous. Alors, donc, je l'ai dit, Emmanuel Macron va s'adresser demain à 20h au pays. Suivant quelle modalité ? Comment ça va se passer techniquement, concrètement ? Jean-Sébastien Ferjou, qu'est-ce que vous savez de ce qui va se dire demain ? Bon, déjà, des modalités. Des modalités. Alors, allez-y. Ce que les auditeurs ne connaissent pas tout.
Une diffusion demain pour.
Sur toutes les chaînes.
Une allocution aux Français à 20h, suivie mercredi d'une conférence de presse pendant laquelle le président répondra aux questions des journalistes.
Voilà. Et vous croyez savoir, Pauline Thévenoud, vous lui dire quelque chose ?
C'est une innovation, cette conférence de presse, puisque jusqu'à présent, le président de la République, certes, il avait donné des conférences de presse à l'Élysée quand il recevait des chefs d'État étrangers, certes, il avait formulé des vœux à la presse, mais une conférence de presse comme ça, sur un grand sujet national, c'est une nouveauté.
Et vous me parliez d'un dîner aussi ?
Oui, ce soir, une réunion de calage avec tous les ministres qui sont reçus à l'Élysée pour les derniers arbitrages. Et ça aussi, c'est une nouveauté. L'erreur à ne pas reproduire, c'est celle de l'allocution du 10 décembre, où on avait vu que les ministres, y compris les plus importants, avaient été tenus un peu dans le secret jusqu'à la dernière minute, si bien que certains avaient contredit le président le matin même en s'exprimant avant lui.
Alors, quel lapin Emmanuel Macron, va-t-il sortir de quel chapeau, Émilie Raffoul ?
Alors, je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal.
Vous avez un chapeau.
Ouais. Non, je vais vous dire le sens de ma question, Émilie.
Non, mais oui.
Le président est enfermé, ai-je lu dans le Parisien, avec quelques proches à l'Élysée. Ça, je me doute, vous avez des choses à dire.
Ouais.
Il enferme avec quelques proches à l'Élysée, il prépare des annonces choc pour relancer son quinquennat, mais est-ce que c'est seulement possible ? Est-ce que la France a les moyens d'annonces choc ?
Bon, alors voilà, précisément, il a annoncé qu'il irait plus vite, plus fort, plus loin.
C'est Coubertin.
Oui, non mais c'est très très fragilisant et très dangereux de faire des effets d'annonce comme ça. Parce qu'à l'arrivée, tout le monde attend quelque chose de très fort, de très haut et de plus loin. S'il arrive avec un pétard mouillé ou des choses qui ne s'emboîtent pas avec les attentes des gens, ça va être très compliqué. Il faut revenir à ce qu'on attend de lui. Ce qu'on attend de lui, c'est un débat qui a été déclenché à cause de la crise des Gilets jaunes. C'est les Gilets jaunes qui ont déclenché cette idée de débat national. Alors, certes, ce qui a été retenu pendant ce débat, et on ne reviendra pas sur les conditions de méthodologie, etc., est-ce que ça s'emboîte avec l'attente des gens qui ont fait ce mouvement des Gilets jaunes ? C'est ça qu'il faut voir. Il y a un abcès de fixation, par exemple, sur l'ISF. Il a déjà dit qu'il n'y toucherait pas. Enfin, c'est assez fragile. Je pense que c'est un peu fragile.
Il y a un magnifique papier dans le JDD aujourd'hui, signé du grand psychanalyste Michel Schneider. Il écrit « À la veille de l'allocution conclusive du président, communicants, élites et commentateurs confondus, sans oublier le bon peuple ayant contribué ou pas au grand débat, tous disent attendre, suspendu à l'oracle, une parole dont ils n'attendent rien. » Je vais vous faire réagir à cette phrase.
C'est certainement le cas des journalistes ou des journalistes politiques pour l'ensemble des Français.
Non mais vous voyez très bien le paradoxe, Émilie a raison.
Pas, mais...
Quand on fait des grandes phrases, on ne peut susciter et générer que de la déception.
Oui, effectivement, mais encore faut-il s'intéresser aux grandes phrases en question, puisque les Français, on l'a vu dans un certain nombre d'enquêtes d'opinion sur la restitution du grand débat ou sur leurs attentes vis-à-vis justement des annonces potentielles du président, ont d'ores et déjà intégré la déception en quelque sorte. Donc à la limite, ça pourrait presque être pris dans l'autre sens, c'est-à-dire que oui, il y a un côté un peu ridicule à employer une sémantique, on l'a entendu avec Édouard Philippe, qui est le pauvre, qui est obligé de faire attendre, donc parler de grands chantiers, il fallait que ce soit puissant et concret. Enfin, donc voilà, effectivement, ça crée une attente de manière un peu artificielle. Mais comme par ailleurs, les Français n'ont pas l'air véritablement d'en attendre grand-chose, pris dans l'autre sens, peut-être Emmanuel Macron pourrait-il, par une forme d'habileté, produire un mini effet de souffle. Maintenant, je ne pense pas qu'il puisse le faire de manière durable, parce que De toute façon, soit il s'agit de mesures de l'ordre un peu du symbolique ou de mesures concrètes sur le pouvoir d'achat, mais elles seront forcément limitées sur un certain nombre de catégories. Et par ailleurs, il y aura la question de leur mode de financement. Et là, je ne suis pas certain que mettre d'accord son propre électorat et la France Insoumise ou les Républicains, enfin bref, l'ensemble des Français, ce soit si facile que ça. Deuxième hypothèse, un vrai virage politique, comme peut-être on en a connu dans le passé, notamment en 1983, quand François Mitterrand avait assumé le virage du Francfort et de la rigueur. Mais j'imagine mal comment, dans le contexte actuel, Emmanuel Macron pourrait porter un virage de cette ampleur-là sans le faire valider par la case élection, dans la mesure où il ne s'appuie pas sur un parti qui est aussi solide de ce que le Parti Socialiste pouvait être, par exemple, à l'époque.
Pauline Thévenot.
Ce qui en attend énormément, en tout cas, de cette séquence, c'est l'entourage du président de la République. Vous parliez du tournant de 83 de la rigueur, mais très proche du président qui me disait ce week-end, dans tous les quinquennats, il y a des moments déterminants et là, on en est là. Le même me disait, c'est pas un point final, c'est un point de départ. Il s'agit d'ouvrir un deuxième temps du quinquennat et ça, ça fait longtemps qu'ils y pensent. Je me permets de revenir à mon livre pour l'épilogue. On avait demandé justement à cet entourage d'Emmanuel Macron comment il voyait la suite des choses. Et quelqu'un comme François Bayrou, à ce moment-là, nous disait « Écoutez, cette crise des Gilets jaunes, finalement, ça peut être une opportunité. On va de redéfinir le projet national et d'ouvrir une nouvelle phase, un acte 2. »
Cette personne de l'entourage d'Emmanuel Macron, je ne vais même pas vous demander qui c'est, mais est-ce que vous aviez l'impression que les gens étaient plutôt confiants ou plutôt inquiets dans son entourage ?
Alors, c'est très difficile à dire parce qu'ils sont quand même, ce week-end, en mode silence radio. Ils nous avaient prévenus en fin de semaine dernière. Ils nous ont dit « Vous allez voir, pendant 3 jours, vous n'allez plus nous entendre. » Là, ce que l'on sent, c'est en tout cas une extrême concentration, mais c'est presque une lapalissade de le dire, vu l'importance du moment.
Émilie Raffoul.
Alors, au-delà aussi des effets d'annonce et de l'attente des gens, qui sont des attentes basiques, qui sont répétées depuis si longtemps, de justice fiscale, etc. et tout, au bout du compte, si on additionne ce qui est demandé, il semble qu'il y ait quand même une revendication institutionnelle, où il va devoir aussi répondre sur ce terrain-là, jusqu'à quel point il peut faire avancer des pions pour bouger institutionnellement le pays, cette 5e République hyper hiérarchisée, avec le président au-dessus, et là même de réaliser que les ministres ne sont même pas au courant de ce qu'Emmanuel Macron va annoncer demain, mais ça fait un petit peu peur. Un petit peu peur, c'est-à-dire d'un point de vue de la démocratie, on se demande, il y a d'un
vous
côté...
Vous savez, François Mitterrand, il organisait rarement des booms chez lui pour prévenir tout le monde.
François Mitterrand ne faisait pas des débats nationaux pour faire donner la parole à tout le monde et ouvrir le débat largement.
Très belle objection,
Jean-Sébastien. Je ne sais pas s'il y a une telle attente que ça sur les institutions, ou plus exactement, je pense que les Français sont très contradictoires en la matière, parce qu'effectivement, vous avez raison, on l'a vu dans les revendications qui ont pu être présentées dans le grand débat. Il faut le rappeler, ce qui porte quand même sur une minorité de Français. Il y a des revendications
2%.
Pour plus de démocratie participative. Mais quand vous le croisez avec, j'y reviens, mais d'autres enquêtes d'opinion, notamment une ces dernières semaines qui m'a frappé, 50% des Français ne seraient pas contre l'idée qu'un militaire soit non pas élu, mais nommé à la tête de l'État. Je ne sais pas s'il y a une si grande attente de démocratie participative que ça. C'est-à-dire qu'il y a des électorats, et on les connaît, qui sont plus militants, plus impliqués dans la vie politique d'ores et déjà. C'est le cas à la France Insoumise, c'est le cas peut-être chez le Rassemblement national, qui voudrait briser un peu les taux ou le cordon sanitaire qui les maintient un peu à l'écart de la vie politique française. Mais chez les autres, je pense qu'il y a surtout une attente d'éclairage, c'est-à-dire qu'on leur montre le chemin. Et c'est toute la difficulté à laquelle est confronté Emmanuel Macron, c'est qu'en 2017, c'était le dégagisme. C'est-à-dire qu'il était la version chic, en quelque sorte, du dégagisme que d'autres avaient théorisé de manière un peu plus abrupte.
Et puis il avait une bonne mesure qui plaisait à tout le monde, c'est ni droite ni gauche, on prend les mesures quand elles sont bonnes et on les rejette quand elles sont mauvaises. Donc pas de politique.
Oui, mais ceci étant perçu comme ce qu'était la gauche et ce qu'était la droite, ce qui n'est pas forcément la droite ou la gauche
là,
dans l'absolu, parce qu'on voit que les réflexes politiques...
Mais là, c'est plus jouable.
Mais ça n'est plus jouable, et par ailleurs, le macronisme, je pense que lui sait ce que c'est, forcément. Lui, il a une cohérence, personne ne peut en douter. En revanche, il n'y en a pas dans La République en marche, et il n'y a pas eu de véritable effort doctrinal qui a été fait. Et quand on voit l'échec absolu, je lisais dans Le Parisien ce matin, cela dit, j'avais déjà entendu les chiffres par ailleurs, des ventes du livre d'Ismaël Emelien et de... son prénom m'échappe, mais Amiel, voilà.
Je les connais pas, dites-les.
Bah, 3700 exemplaires en 3 semaines, c'est quand même un four absolu.
C'est
pour quelque chose qui voulait être le manifeste, justement, de ce progressisme censé incarner
d'autant qu'il avait justifié la promotion de ce livre pour quitter son poste en pleine affaire.
Il faut souhaiter qu'il ait des revenus alternatifs par ailleurs dans ce cas-là.
Un mot, parce qu'ensuite on fait une pause et on va parler
des
mesures.
Le documentaire de François Ruffin explose non pas des records, mais un taux de spectateurs absolument incroyable d'après les journaux que j'ai lus, dans le même temps.
Alors, les mesures concrètes, il y en a 10 sur la table qui ont été listées par le JDD. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. On se retrouve tout de suite après ça.
19h38, la suite de notre grand débat d'actu sur Europe 1 avec vous, Philippe Vandel et vos invités. Émilie Raffoul, journaliste et productrice télé à 5-10 Productions. Jean-Sébastien Ferjou, fondateur d'Atlantico. Et Pauline Thévenot, journaliste politique au Parisien.
Nous parlons du président Macron qui va s'adresser demain à 20h au pays, à la nation, comme on dit autrefois. Le JDD a listé la liste des 10 mesures.
On pourrait peut-être encore le dire. Hein.
Qui s'adresse à la nation.
Oser parler de la nation, oui.
Voilà, c'est encore un autre sujet. Mais là, déjà, je voudrais parler concrètement des 10 mesures qui sont sur la table. Le JDD ne préjuge pas de ce qui va être utilisé ou non dans la bouche d'Emmanuel Macron, mais je voudrais savoir, selon vous, lesquelles vous semblent plus probables, et vous me faites des grands signes, Pauline Thévenot, vous vouliez dire quelque chose.
Oui, absolument. Ce qu'on voit très bien, là, dans cette liste, c'est le mode de fonctionnement de la prise de décision en Macronie. On voit qu'il y a des mesures qui sont poussées par tel député, tel ministre, tel pilier de la majorité, comme François Bayrou, et on voit comment, en fait, tout remonte au président, comment chacun lance ses pistes, comment le président est abreuvé d'idées et avec, à la fin, la nécessité de trancher et de décider.
Si je vous suis dit, vous voulez dire qu'en lisant cette série de 10 qu'on va détailler, on a l'impression d'un kaléidoscope et sans vision d'ensemble, ce que dénonçait Jean-Sébastien Ferjou.
Absolument, puisque c'est exactement dans la lignée de ce qu'on disait tout à l'heure. Étant donné qu'il n'y a pas de doctrine politique, de doctrine macronienne qui a été complètement établie et qu'il y a une majorité qui est très plurielle, forcément, dès qu'il y a des imprévus, dès qu'il y a des décisions qui n'étaient pas dans le programme présidentiel à prendre, eh bien on voit, comme vous disiez, un kaléidoscope de sensibilité et d'idées qui remontent.
On voit parfois plus d'argent pour le service public et moins d'impôts, qui était justement ce qu'on reprochait au propos des gilets jaunes. Alors la première, des aides pour les familles monoparentales. Une famille sur cinq est monoparentale, le plus souvent autour de la maman. 40% des pensions alimentaires ne sont pas versées, d'où la création d'un fonds chargé de récolter les pensions alimentaires et de les reverser aux mamans. C'est ce qui se fait au Canada avec succès. Ça, c'est plutôt une bonne idée.
Oui, non. Et cela dit, ça avait déjà figuré au moment de la présentation du programme d'En Marche pendant la présidentielle, parce que c'était une mesure qui était remontée pour le coup de la Grande Marche. Vous savez, quand les marcheurs étaient allés à la rencontre des Français. Et effectivement, il est plus logique d'imaginer que les Français aient des propositions ou des avis sur ce type de mesure-là qui les concerne directement, que d'être capable de définir, eux, ce que serait une bonne réforme des retraites. Et c'est là où on voit un peu la contradiction, d'ailleurs, de vouloir attendre des Français qui sachent exactement ce qu'ils veulent. Ils savent souvent ceux qui ne veulent pas, ouais. Ou alors ils le savent sous forme d'objectif global, mais pas nécessairement sous forme de mesures détaillées. Maintenant, là, les mesures qui étaient présentées ce matin, elles ont un effet un peu, ça part dans tous les sens, mais ça n'est pas ce que va dire le président. Et encore une fois, de toute façon, la question, elle sera surtout celle du financement, parce que on peut toujours dire qu'on veut réindexer.
Ils veulent des EHPAD moins chers. Tout le monde veut des EHPAD moins chers.
Oui, mais en soi, les objectifs en question ne sont pas des objectifs contestables, en tout cas pas pour tous, parce que quand je vois obligation faite aux médecins de s'installer dans certaines zones rurales, je ne suis pas certain que les médecins, dans le cadre de la médecine libérale française, acceptent.
Ils sont vent debout contre cette mesure, par exemple.
Bien sûr qu'ils sont vent debout contre cette mesure-là. Mais quoi qu'il en soit, là où il y aura un vrai enjeu de philosophie politique pour Emmanuel Macron, au-delà de l'affichage des mesures, enfin, pour les Français, ce sera la manière de les financer, parce qu'on y revient. Est-ce que Emmanuel Macron annoncera qu'on renonce à respecter les règles européennes ou qu'on s'écarte de la trajectoire budgétaire qui est celle qui a été définie jusqu'à présent? C'est ça le vrai enjeu. Il y a une élection européenne.
Pas encore.
Dans quelques temps. Donc est-ce qu'Emmanuel Macron, justement, reviendra sur cet engagement-là, lui qui se veut très européen?
Émilie Raffoul.
Alors, à nouveau, je pense qu'effectivement, la question du financement, elle est cruciale. Mais à nouveau, est-ce que toutes ces mesures vont s'emboîter avec l'attente des gens? Parce que, quand même, le thermomètre est là. Et on voit quand même plusieurs secteurs qui commencent à chauffer un peu. Là, il y a le secteur de la santé, il y a les derniers services d'urgence des hôpitaux parisiens ont rejoint la grève aujourd'hui, ils sont tous en grève.
À partir de ce soir minuit, on a reçu justement le patron de la CGT des urgentistes, justement, pour en parler. Voilà. Avec des manques de moyens absolument criants. Il y a deux fois plus de gens qui arrivent aux urgences à personnel constant.
Exactement. Enfin, c'est terrifiant. Mais la grogne monte aussi dans l'éducation nationale, dans la santé globalement, chez les fonctionnaires, les retraites, à nouveau. Jean-Paul Delevoye a failli rendre sa casquette il y a quelques jours, parce que déjà, le gouvernement annonçait qu'ils allaient retarder l'âge de la retraite avant même que les négociations aient eu lieu avec les syndicats.
Et alors que ça lui-même avait dit qu'on ne toucherait pas aux 62 ans.
Exactement. Bon, il a gardé la casquette, il n'a pas démissionné, mais je veux dire, toutes ces mesures sont évidemment, on a envie de payer moins d'impôts, évidemment, on a besoin de plus d'argent dans les EHPAD. La question d'urgence, là, est-ce que ça va, le dialogue va reprendre entre les Français et leur représentation politique.
Pauline Thévenot.
En tout cas, il y a une certitude concernant ces annonces, ou en tout cas, à minima, une promesse que font, que fait l'entourage du président de la République, c'est qu'elles concerneront un champ, un spectre très large. On me parlait d'un Macron 2 programmatique, d'un champ programmatique quasiment à 360 degrés. Et d'ailleurs, on pouvait s'y attendre, puisque lundi, il y a quelque chose qui, lorsque le Premier ministre a présenté la restitution du grand débat, qui a énervé bon nombre de macronistes, c'est qu'on a retenu que son propos sur l'exaspération fiscale et les baisses d'impôts. Et les macronistes disaient, mais c'est pas possible, ça ne peut pas se résumer à des baisses d'impôts, c'est trop étroit comme champ, il ne faut surtout pas qu'on comprenne ça. Nous, ce qu'on veut, c'est donner une vision d'ampleur.
Alors, lesquelles, dans ces mesures-là, les 10 cités, mais d'autres, si vous avez des informations que je n'ai pas, vous paraissent des mesures d'ampleur, des mesures qui font, comme je l'ai entendu ici et là, un effet waouh.
C'est... Oui. C'est très compliqué, là, ce soir, de faire des pronostics.
Non, vous n'avez le droit de me dire aucune. Vous avez le droit de me dire dans
si,
ce que je dis là.
En tout cas, le revenu universel pourrait produire un effet waouh.
Tiens, puisque vous en parlez, oui, le revenu universel, ça serait plutôt de regrouper toutes les aides. C'est ça, le RSA, les aides sociales, en une seule et même, ou un revenu universel. C'est bien ça.
Oui,
absolument. Juste un mot après, je vous donne la parole. Je me trompe ou c'était ce qu'avait proposé Benoît Hamon, suscitant parfois l'ironie de ses compétiteurs lors de la campagne présidentielle?
Mais parce qu'il y a le revenu universel comme simplification des systèmes de sociaux et fiscaux, parce qu'en général, ce qui va avec le revenu universel, c'est une grande simplification de la fiscalité, souvent avec une espèce de logique de flat tax d'ailleurs. Et après, il y a la manière de le financer. Mmh. Et là où Benoît Hamon, je pense, avait commis des erreurs, ou en tout cas s'était fait critiquer, une erreur politique majeure qui était de l'associer à la fin du travail, parce que pour le coup, ça était profondément anxiogène pour les Français. C'est-à-dire plutôt que de dire, on va dans un monde qui effectivement est différent techniquement, qui fait que les gens sans diplôme, etc., peuvent avoir plus de difficultés à s'intégrer, et donc il faut prévoir quelque chose pour les aider. Il avait l'air de prophétiser, en quelque sorte, la fin du monde tel qu'on le connaissait, et pour des Français déjà très perturbés par le chômage, c'était pas très habile. Et deuxième point, la manière dont il voulait le financer, lui, n'avait pas beaucoup de sens par rapport aux finances publiques ou aux grands équilibres, ce qu'on peut se permettre en tout cas à l'heure actuelle. Mais il y a des versions totalement libérales aussi, du revenu universel, ou des versions plus techniques d'ailleurs, si on veut. Dans les faits, ça existe déjà, plus ou moins, c'est 483 €. Si vous regardez, si vous arrivez à faire le jour au milieu de la complexité du maquis fiscal français, ça existe déjà, sauf que le système actuel est complètement illogique parce que c'est un système qui est en dentille en quelque sorte, notamment sur les allocations familiales. Entre deux personnes, par exemple, à niveau de revenus comparable, vous allez avoir un niveau de prestation totalement différent, juste parce que vous avez quelque chose qui est un tout petit peu à côté, et puis la personne encore un peu après, elle sera à nouveau sur une situation très différente. Donc il y aurait de toute façon besoin de simplifier tout ça.
Pauline Théveniaud.
Il y a là un souci, vous parliez d'effet waouh, en tout cas il y a un souci au sein de l'exécutif et au sein de la présidence de la République, de mêler à la fois la vision, quelque chose qui relève du projet, et des mesures très concrètes. L'exemple des femmes seules, Édouard Philippe en a parlé dès lundi lors de sa restitution, et avec cette idée, ça c'est ce qu'on nous disait dès lundi au sein du gouvernement, de montrer, je cite, qu'on a pris conscience de situations de gens qui étaient sous les radars, et donc que les discussions du grand débat n'ont pas été inutiles et qu'on fait concrètement pour le quotidien des gens.
Alors, on va parler juste après de mesures qui seraient beaucoup plus étatiques, je ne sais pas comment dire, structurelles, les hauts fonctionnaires dans le viseur, plus de proportionnels, plus facilement des référendums, mais ça sera juste après ça.
19h49, c'est la dernière partie de notre grand débat d'actu sur Europe 1. Philippe Bandel, vous vous êtes entouré ce soir de Pauline Théveniaud, journaliste politique au Parisien, de Jean-Sébastien Ferjou, fondateur d'Atlantico, pardon, et Émilie Raffoul, journaliste et productrice télé à 5 bis Productions.
J'annonçais qu'on allait parler des mesures institutionnelles prévues ou pas par le président Macron, qui va parler demain à 20h, mais ce faisant, je ne voyais pas le temps passer et nous sommes déjà dans la dernière partie de ce débat. Je voulais qu'on parle des gilets jaunes avec cette question suite et fin. C'était hier le 22e samedi de manifestations des Gilets jaunes. Ils étaient 31 000 dans toute la France, 5 000 à Paris, 4 500 à Toulouse. C'est un peu mieux, que le samedi précédent, mais c'est 10 fois moins qu'au début de la crise. Est-ce que le mouvement s'essouffle, selon vous, Émilie Raffoul ?
Bon, chez Souffle, j'en sais rien. Les braises sont là, les revendications sont toujours là. La loi anti-casseur avec... Il y a eu beaucoup plus de contrôle.
Alors justement, je donne cette info.
Incroyable.
La loi anti-casseur qui a été votée avec son lot de polémiques, justement volée, le lapsus et tout trouvé, son décret d'application, c'était jeudi qu'elle a été promulguée. En tout cas, là, elle était effective.
Premier contrôle, comment ils appellent ça, les contrôles préventifs.
Est-ce que ça a changé quelque chose?
Alors, il y a eu davantage de contrôles préventifs à Paris que de manifestants. 6000 contrôles préventifs environ pour 5000 manifestants, vous disiez à l'instant.
Mais ils ont contrôlé qui? Des vieilles grand-mères?
Je ne sais pas, on est dans une spirale sécuritaire qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a pas vue depuis Alain Perfit sous Pompidou, nulle part ailleurs en Europe. C'est une espèce de spirale qui part toute seule avec un effet aspiration qui fait que ça ne s'arrête pas. En tout cas, malgré la peur des blessures ou pas, je dirais que malgré la loi anti-casseurs, tous ces gens-là se sont quand même déplacés, alors qu'on disait que c'était la fin du mouvement. On annonce la semaine prochaine, le 20, une énorme mobilisation. Quelques temps plus tard, il y aura le 1er mai. Je n'ai pas l'impression qu'on soit rendu.
Pauline Thévenot.
Et il est à noter que cette loi anti-casseurs, en tout cas, elle a déjà eu un coup politique pour la majorité. Souvenez-vous, elle a suscité la plus importante fronde, si on peut reprendre ce terme, depuis le début du quinquennat. Par ailleurs,
50 députés de La République En Marche qui sont abstenus. Ils n'ont pas voté contre, ils sont abstenus.
Le Conseil de l'Europe qui a condamné.
On raconte dans le livre une scène qui est un dîner organisé par Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, pour vendre cette loi
anti-casseurs
aux députés. Et ils se retrouvent face à des députés de la Commission des lois, dont la présidente de la Commission des lois, Yaël Braun-Pivet, vent debout, lui disant que c'est liberticide, que ce n'est pas possible de faire ça.
Mais ce qui prouve qu'il a été écouté par sa députée, puisque la loi est ici, quoi qu'un article a été retoqué.
L'une des mesures a été retoquée par
le président de la République avait décidé de la soumettre au Conseil.
Elle n'a pas été censurée à la demande du président. Le président avait demandé au Conseil constitutionnel de se prononcer sur sa constitutionnalité.
Non, je ne dis pas là que ce n'est pas un total camouflet, puisque c'est lui-même qui avait suscité l'avis du Conseil ici.
Quand même un peu, puisque c'est son gouvernement qui l'a porté, c'est la majorité qui se regroupe autour de lui qui l'a voté, qui l'a fait voter.
Mais alors, en tout cas, hier, les commentateurs ont remarqué que, loi anti-casseur ou pas, il n'y a pas eu de casse.
Il n'y a pas eu de casse parce que peut-être les gens se recentrent sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est cette aspiration, malgré tout, à plus de justice fiscale, à surtout participer à la décision politique. Je ne sais pas si vous avez vu que Cyril Dion a lancé un appel pour créer une liste... vous l'avez pas vu, Cyril, c'était dans Le Monde ce soir ou d'hier, un appel signé par Marion Cotillard et un certain nombre de gens, il y a plus de 200 personnes, pour créer une assemblée citoyenne. Et donc, ces demandes de participer aux politiques et à la décision émanent de tous les côtés, et ça, c'est un front énorme.
Pardon, Émilie Raffoul, 200 personnes, c'est pas la France.
Ça s'appelle quand même les élections. Le problème français, c'est pas tellement un problème institutionnel, c'est un problème d'offre politique. C'est-à-dire que, paradoxalement, alors qu'il y a, je sais pas combien, au moins 12 listes qui se présentent pour les européennes, on est quand même à 58-59% d'abstention dans ce qu'on montre les sondages. Et donc, est-ce que c'est parce que les Français sont des enfants gâtés? Il y a 3 candidats d'extrême gauche, 2 d'extrême droite, ou je ne sais pas combien. Enfin bref, moi je pense que non, c'est surtout parce qu'ils sont orphelins d'une offre politique et qu'ils sont désormais aussi orphelins des Gilets jaunes. C'est-à-dire de ce que les Gilets jaunes ont pu incarner comme espoir au début du mouvement et que la casse ou d'autres dérives ont pu abîmer par la suite. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable alternative politique. Il y a des vieux réflexes. C'est-à-dire que on est dans cette phase intermédiaire entre un ancien monde et un nouveau monde, et il n'y a pas d'offre qui se soit véritablement recréée en l'état, puisqu'on voit que les gens ne s'y retrouvent pas.
Émilie Raffoul.
Et pour aller dans le sens de Jean-Sébastien, il y a cette fameuse diagonale du vide, qui est la France de la ruralité, la France exclue, la France des gilets jaunes en gros, qui n'a pas du tout parti, d'après les peu de chiffres que les sociologues ont pu étudier, qui n'ont pas participé au grand débat.
Ils sont très très peu rendus dans les débats, ils ont très peu écrit, et ils sont très peu allés sur Internet.
Et ce sont massivement les abstentionnistes de la dernière fois. Donc c'est vrai que c'est une situation politique unique, je ne vais pas remonter à 1934, mais...
Et il y avait une étude sociologique extraordinaire là-dessus, sur le fait qu'ils sont allés parfois dans des débats, et comme ils n'avaient pas la maîtrise de la parole, ils se sentaient humiliés par rapport aux gens, aux sachants qui étaient là, qui parlaient, qui étaient des professeurs, des médecins, des notaires, on ne va pas leur reprocher de savoir parler le français, mais eux-mêmes n'osaient pas prendre la parole.
Je pense qu'il faut une réforme massive, là, il y a une réforme massive qui doit se mettre en place.
Vous parliez du papier de Michel Schneider dans le journal du dimanche sur la psychologie d'Emmanuel Macron, et finalement le fait de s'être autant affiché, qui était peut-être plus, selon Michel Schneider, un signe de faiblesse qu'un signe de force, mais en tout cas, pour les Gilets jaunes, ça n'était pas un débat, parce qu'Emmanuel Macron, ça crée une asymétrie. Comment voulez-vous allez-vous débattre avec quelqu'un qui vous prouve sur tous les tons qu'il est brillant ou en tout cas qu'il maîtrise techniquement parfaitement les dossiers. Et c'est la même chose qui s'est reproduit un peu partout. C'est-à-dire que les gens qui sont allés au grand débat, et il fallait le faire, je pense qu'il était utile de le faire pour ramener la paix dans le pays, mais enfin, tout en étant conscient des failles sociologiques ou des biais sociologiques que ça produisait. Mais de toute façon, cette asymétrie-là entre des gens, comment voulez-vous, quand vous êtes face à des sachants, vous exprimer ? Puisque précisément, ils ne vous écoutent pas. Ils devraient nous écouter ou écouter les gens dans les élections.
Ou quand bien même, on peut se sentir complexé.
Emmanuel Macron, il sait très bien que ce n'est pas avec les annonces de cette semaine qu'il ne va pas convaincre le noyau dur des manifestants qui étaient encore dans la rue hier. Ce n'est pas l'objectif, il sait que ce n'est pas réaliste. Le pari, c'est que ce mouvement-là soit minoritaire, voire impopulaire, et que les Français adhèrent à ce qu'il proposera.
Le mot de conclusion, c'est Émilie Raffoul.
Il reste quand même un point très symbolique, c'est cette fixation sur l'ISF. Il a dit d'emblée qu'il n'en parlerait pas. Les gens demandent majoritairement le rétablissement de l'ISF.
Oui, c'est ce qui est remonté.
Il y a une absence de fixation et ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer là.
Merci beaucoup. On s'arrête ici. Émilie Raffoul, vous êtes journaliste et productrice télé à 5 bis Productions. Merci Jean-Sébastien Ferjou, fondateur d'Atlantico. Et merci à Pauline Thévenot qui nous rejoignait pour la première fois, journaliste politique au Parisien. Et je rappelle que vous publiez Les Apprentis de l'Élysée. C'est chez Plon et c'est coécrit avec Jérémy Marot de l'AFP.
Europe 1.
On va parler foot maintenant. Lionel Rousseau, dans un instant, c'est Europe 1 Sport. C'est quoi le programme ?
Le programme avec une rencontre de football ce soir qui peut sacrer le Paris Saint-Germain.
Ah mais oui, c'est vrai.
Mais oui, Lille-Paris Saint-Germain, match nul suffit.
Exactement.
Mais Lille est le dauphin du PSG et Lille a très envie de s'imposer face au PSG ce soir. Et puis des grands débats, Philippe, évidemment, autour de Lyon, de Marseille, ouais, de Saint-Étienne aussi.
Saint-Étienne qui a gagné 3-0 et Lyon qui perd avec les gars et qui gagne avec les filles. Merci Lionel. Nous, on se retrouve samedi prochain à 18h. Salut Marlène.
Salut Philippe.
Bon week-end, bon voyage, bonne semaine à tous. Et bonne soirée sur Europe 1.